Nous sommes mercredi 3 mai 2017, et qu'allons-nous faire ce soir, Antix?
Comme tous les mercredis soirs, mortal! Parler de Nintendo!
Ah! Bah
bonsoir à tous, bonsoir Drosgar.
Bonsoir!
Merde, je l'ai chié dessus, mais c'est pas grave. Bonsoir Antix.
Bonsoir Mortal, bonsoir à tous.
Bonsoir Zergy.
Bonsoir.
Voilà, on a perdu Zergy sur le retour des héros, désolé.
Intro pas du tout improvisé, parfaitement préparé.
Totalement professionnel. Comme d'habitude, hein, je veux dire. On a l'équipe marketing d'Emmanuel l'équipe de campagne pardon, d'Emmanuel Macron derrière nous, hein, je veux dire.
Au moins.
Faut vendre du président. Faut faire élire du président, excusez-moi. J'arrête pas de confondre. Bref, le gros sujet de ce soir, ce sera le GameCube.
Car ce sont les 25 ans du GameCube.
Ça fait 15 ans, ne nous oubliez pas.
15 ans, pardon.
C'est les 15 ans du GameCube en Europe qui est sorti exactement le 3 mai 2002. C'est Zergy qui nous l'a rappelé il y a 2 semaines. Et du coup, je me suis dit que ce serait vraiment, vraiment cool de faire une émission dessus. Parce qu'on n'en avait jamais parlé, en fait, tout bêtement. Alors que Antix aime bien faire des anniversaires. Donc ce sera notre gros sujet, mais nous allons commencer tout de suite par notre tour de table de l'actu. Je laisse Drosgar prendre la parole pour nous parler un petit peu des DLC de Breath of the Wild, qui est un petit jeu, je sais pas si vous connaissez.
Alors, est-ce que vous connaissez le principe de DLC? Ok, j'ai arrêté de faire des intros comme ça, c'est ridicule.
C'est pire en pire tes intros.
En gros, vous savez tous, toutes et tous, pardon, que... Enfin, toutes, comme s'il y avait des filles qui nous écoutaient, on sait bien que c'est pas le cas. Que des DLC ont été prévus pour notre cher Zelda Souffle Sauvage. Un Season Pass entier facturé 19,99€. Et celui-là... Ouais, bon, c'est vrai que ça fait un peu mal au cul, mais pour ceux qui ont l'habitude...
Moins que les 45€ de Fire Emblem et cause.
Oui, voilà, c'est ça. Ou pour ceux qui viennent du PC, ça paraît presque anodin au final. Ou certains Season Pass coûtent plus cher que le jeu lui-même. Mais bref, donc ce Season Pass va être fourni en 3 packs à différentes dates, donc cet été, cet automne, cet hiver. Et le contenu du premier pack a été révélé hier. Avec des choses qui ne sont pas hyper intéressantes comme on pouvait s'y attendre, hein. De toute façon, en fait, on avait vu que c'était surtout les derniers packs qui étaient intéressants avec une histoire un peu inédite. Là, pour l'instant, ça va surtout être des armures comme un masque Kokoroku. Je sais jamais comment ça se prononce.
Koloku.
Kogoro.
Kogoro.
Kogoro. Non, mais c'est vrai, c'est le truc qui va te permettre de détecter plus facilement les Korogu, c'est quand même très pute.
Voilà, Korogu, merci.
Zéro, si tu veux récupérer les 900 noix comme The Completionist a fait dans sa vidéo de vendredi dernier, ben, tu vas pouvoir le faire sans te prendre la tête. Enfin, sans te prendre la tête.
Vite fait, quand même. Hein.
Un peu moins.
Nom d'une feuille.
Ah, tu m'as trouvé.
Comme ouais, ça, à chaque fois, maintenant, je dois avoir un caca collector.
Voilà. Caca collector.
C'est fois. Vraiment ridicule comme récompense. Hein.
Je trouve que c'est une énorme vanne. Enfin, c'est la défense comme une vanne, elle est géniale.
Ouais, mais c'est une vanne dans laquelle tu passes 30 heures. Enfin, même 30 heures.
Bah ouais, bon, moi, du coup, à chaque fois que je trouve un Korogu, je lui rebalance la caillasse sur la gueule. Par principe.
T'as bien raison. Du coup, tu peux avoir un masque Korogu, le masque de Majora, comment ça s'appelle, le casque de Midona, la tenue Tingle, ce genre de choses.
D'ailleurs, il y a un effet qui a été donné pour le masque de Majora, c'est-à-dire si tu le mets, tu rencontres un terrible destin.
Et la lune commence à tomber.
C'est
la
merde.
C'est bon,
merde.
J'ai balancé la lune sur le château, Ganon est mort.
Ah bah voilà, ouais, ouais, le problème est réglé aussi, les gars. Hein, vous avez dit
ah bah
que
comment je suis mort aussi. Dommage.
Oui, bah voilà, au bout d'un moment, c'est bon.
Faut savoir ce que vous voulez, hein.
On peut pas tout avoir.
Au final, il y aura aussi un système un peu spécial, avec en fait un tracé sur la carte qui va être enregistré, et en fait qui est déjà enregistré vu que ce tracé est rétroactif. Donc si vous voulez, je pense que c'est une option à activer ou non sur la carte, on pourra voir tout le chemin que l'on a parcouru durant les 200 dernières heures.
Ce qui peut être intéressant. Et donc on pourra dessiner des bits.
Totalement, mais c'était justement mon second point. Ce qui est intéressant pour faire des dessins complètement cons comme des bits. Merci.
Voilà, excusez-moi.
C'est ça l'intérêt, je pense, de ça. Non, c'est intéressant
pour dessiner des quéquettes, donc.
qui souhaitent se balader sur la map en leur dessinant, ou alors qui souhaitent vraiment vérifier et visiter chaque coin de la map. Enfin, on a un certain sur le dojo qui sont déjà combien. Il a combien d'heures, Pab?
Pab est à 245 heures, je crois, mais c'est pas le recordman, puisque Samus...
Il n'y en a pas à 330,
ouais. Samus est à 345 au dernier des comptes.
Mais que font ces gens sur The Legend of Zelda? Ils ont recommencé le jeu, ou...
Non, alors Samus n'a pas recommencé le jeu. Alors Samus travaille dans un endroit un peu particulier, où en gros, il surveille des trucs, donc en fait, il se fait un peu chier toute la journée, donc au final, il a vraiment que ça à foutre.
Ah, c'est pour récupérer les fragments d'étoiles?
Alors il y a les fragments d'étoiles, mais je pense qu'il a vraiment essayé de collecter tout ce qu'il pouvait collecter. Moi personnellement, j'ai fini le jeu en ayant fait les 120 sanctuaires. Alors les 10 derniers, j'ai utilisé une soluce pour les trouver.
Parce t'as fait les 120 quand même.
J'ai fait les 120, mais les 10 derniers, j'ai utilisé une soluce pour les trouver parce que je me suis dit bon, les 10 derniers sur 120, si je dois recadrer toute la map pour arriver à les trouver, ça va pas le faire. Et en plus, enfin, tous les sanctuaires que j'ai trouvés, en réalité, si j'avais fait un petit effort d'exploration au premier coup, je les aurais trouvés. C'est juste qu'à chaque fois, j'ai vraiment pas fait l'effort d'aller explorer certaines zones à fond. Genre la tour des collines, je l'ai ouverte, j'ai regardé les trois sanctuaires qu'il y avait autour. Il y en avait trois autres, je crois, que j'avais pas trouvé parce qu'en fait, j'avais juste pas essayé. Bref.
Parce que t'es un gros feignant.
Non, mais j'ai fait ça, j'ai trouvé un peu par hasard Ganon, je lui ai pété son cul.
Par hasard.
Mais franchement, par hasard. Vraiment par hasard.
Qu'est-ce que je fais au sommet du château?
Non, mais en fait, je cherchais le dernier sanctuaire qui est censé être dans le château. Et je le trouvais pas. Et en fait, je suis rentré par derrière, comme d'habitude.
C'est ce que j'allais dire.
Non, mais je suis passé par l'arrière du château en me disant, j'ai pas envie de me taper les gardiens, les machins, je veux juste aller faire une reconnaissance. Je rentre dans la première pièce qui me tombe sous la main, et on me dit, quartier principal, Ganon tombe. Je fais, ok, cool, bon ben voilà. Donc...
Il y a Ganon ici.
C'est un peu ça, c'est... Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Surtout que ça indiquait en gros, avec un gros point jaune sur la carte...
Mais moi je pensais que c'était plus haut, plus bas, enfin tu vois, j'ai vraiment pas réfléchi, je suis rentré dans le premier bâtiment.
Mais du coup, savais pas qu'il y avait un sanctuaire dans le château.
Mais il y a un sanctuaire dans le château qui est pas évident à trouver d'ailleurs.
Oui, il est assez compliqué, au sous-sol.
Ouais, c'est ça, alors on va peut-être pas spoiler tout de suite, mais il est un petit peu compliqué à trouver, mais il est plutôt vers le bas.
Là, j'avais visité les sous-sols, je suis pas tombé dessus. Bah après, je mets pas le détecteur Sheka,
Moi je le mets le détecteur Sheka, mais je crois qu'il se repère pas au détecteur Sheka, s'il y a un truc, c'est un autre truc à faire.
Moi je le mets pas non plus, mais j'avais fait exprès de le chercher justement pour avoir un point de téléportation au sein du château, c'était vraiment trop chiant d'y aller, sinon...
La distance est loin, sinon. J'avoue que j'aurais bien aimé savoir. Parce que je suis arrivé en haut, j'ai fait, c'est quand même bien que j'aille faire 2-3 trucs avant d'aller casser la gueule à Ganon. Genre pour les derniers souvenirs.
Enfin bref, donc j'y ai passé 85 heures. En ayant fait 120 sanctuaires, une grosse centaine de graines de Korogu, en gros. Et les 120 sanctuaires. Donc, et l'intégralité des costumes du jeu. Je les ai tous.
Ah ouais, quand même.
Ils sont pas tous upgradés, mais je les ai tous.
Ah, il doit manquer le pantalon de la tenue d'escalade pour l'instant.
Alors le pantalon de la tenue d'escalade, voilà. Tu le trouveras.
Je peux l'acheter pour 4000 rubis à un mec au village de Zéro, mais je vais essayer de le trouver dans un sanctuaire plutôt.
Alors moi, il y a des trucs que je sais pas si tu peux les acheter ou pas, en fait. Enfin bref, bon. Donc, je vois pas ce qui branle les mecs qui sont à plus de 200 heures, parce que, franchement...
Ils essaient d'avoir tous les Kogoro tout maxé dans les tenues, mais c'est pas très utile, quoi.
Bah, tout maxé dans les tenues, je vois même pas à quoi ça sert, parce qu'en fait, j'ai upgradé certaines tenues jusqu'à 2 étoiles, voire 3 étoiles, et j'ai vu que ça augmentait que la défense, et je me suis dit, bah, je m'en branle, j'ai une armure, donc...
C'est intéressant pour certains, enfin pour les sets où t'as un bonus quand t'es niveau 3 ou 2, je sais plus. T'as un bonus si tu mets les 3.
Mais c'est lesquels?
Un peu tous ceux qui sont pas la tenue ilienne et l'armure, je crois.
Parce que j'en ai pas vu un seul jusqu'à présent.
J'en ai un avec la tenue barbare qui est sûrement une des plus élevées. Ou d'ailleurs, je tue des inox avec une épée à une main, je leur balance des. Je pense un bon 8ème de leur vie qui part à chaque coup d'épée, ça c'est drôle à voir.
Moi j'ai battu Ganon comme ça avec une... En fait j'ai bricolé... Alors si vous voulez la recette, hein, je peux vous la donner, c'est de l'extrait de monstre et 4 bananes lames. Et en fait ça te fait une potion qui fait 3 d'attaque, enfin tu sais niveau 3 d'attaque pendant 30 minutes.
Putain,
tranquille. Énorme. Tranquille pépère. Voilà. Ganon il a pris très très cher dans son cul. Et ça je l'avais, tu vois, en me rendant au château complètement par hasard. En plus c'est vrai, putain. Bref.
Je tiens à préciser que Pab me dit je cherche tous les Korogu et j'ai dépassé les 400 heures juste. Non, j'ai dépensé les 400 Korogu juste en jouant. Ce qui est déjà énorme.
J'ai dépensé mon 400 heures. J'en ai trouvé une centaine et en recadrillant la carte.
Ouais.
Moi j'en ai une centaine et ça me suffit pour le moment. Et d'ailleurs, on pourrait rajouter un petit truc sur Zelda, c'est qu'il y a une mise à jour du jeu hier et on peut désormais choisir la langue des voix dans le jeu.
Jouer en français avec du français québécois.
Il y a français, québécois, vraiment.
Il y a que français tout court. Par contre, tu as le choix entre espagnol européen et espagnol américain. Voilà, mais du coup, tu peux jouer à Zelda en français avec les voix russes, espagnoles, allemandes.
Mais alors, moi, la question que j'ai à poser, c'est est-ce qu'il y a les voix black des années 80, tu vois?
Oh, Link, tu dois aller sauver Zelda! Sauve ma fille!
Faut que tu ailles sauver Zelda, mec! Ce serait quand même sacrément badass.
Alors, je pense que le pire, ce serait quand même s'il mettait ces voix-là que au Goron, là, ce serait sacrément raciste.
Oh putain. Ça y est, je crois que le podcast a déjà atteint le point de non-retour. Il est 21h10.
Point Godwin, c'est bon.
Nous sommes donc au débat présidentiel. Bonjour Marine Le Pen.
Oh non, ça suffit.
On avait dit pas la politique, mec.
Alors non seulement on avait dit pas de politique, et puis en plus ça va quoi. Pour faire de la politique comme ça, c'est pas la peine.
Ça va.
La pire politique.
Alors, dernière.
Le pire serait de mettre les voix de Zelda CDI.
Oh non, pire chose.
Seul Link peut vaincre Ganon.
Squala, nous sommes partis. Et après, on se demande pourquoi on veut pas entendre Link parler.
C'est un peu ça.
Du coup, on n'a pas fini de parler du DLC. Je le rajoute juste. Il y a un hard mode, c'est pas très intéressant. Il y a juste la possibilité.
Il y a un mode dur.
Le mode dur. Il y a juste la possibilité en fait de faire un challenge en 45 pièces où on commence totalement à poil, sans armes, sans armure. Et si on réussit jusqu'au bout, on débloque une Master Sword qui est tout le temps brillante, donc qui fait tout le temps 62 dégâts au lieu de 32 dégâts. Pour ceux qui sont vraiment motivés, ça peut être intéressant.
Pour les autres, vous avez le droit de continuer à vous en branler.
Voilà. Totalement.
Et attendre le DLC d'hiver, voir s'il contient des trucs intéressants.
D'hiver est varié.
Voilà, je finis ce tour de table de l'actualité très très rapidement avec un petit mot de la FTC, la Federal Trade Commission américaine, qui est en gros l'équivalent de la répression des fraudes, enfin de la DGCCRF en France. Donc c'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qui met en garde les internautes contre des soi-disant émulateurs Switch. C'est-à-dire qu'en fait, apparemment, il y a des publicités mensongères qui traînent sur Internet. C'est vrai qu'il n'y a jamais de mensonge sur Internet, hein, ça n'existe pas, tout le monde le sait bien, font la publicité avec la marque Nintendo, avec le logo et tout le bazar, d'émulateurs Switch qu'on peut télécharger, qu'on peut acheter pour un prix modique, hein, ça part de 20$, ça va jusqu'à 50$, et qui permettrait de jouer à tous les jeux Switch depuis son PC de bureau, tranquillement. Voilà. Donc la FTC nous dit qu'il ne faut surtout pas évidemment payer pour, qu'il n'existe pas d'émulateur Switch officiel ou non, et rajoute en toute fin de note, ce que je trouve assez ahurissant, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de stock de Switch, mais si vous voulez absolument y jouer, allez y jouer chez des amis plutôt que de télécharger n'importe quoi sur Internet. Voilà. On remercie tous la Federal Trade Commission de nous prendre pour des abrutis, donc...
Merci.
Merci beaucoup. Voilà. Nous allons donc marquer une première petite pause musicale, et j'ai choisi, pour cette pause musicale, de m'attarder sur un chef-d'œuvre de la GameCube, un jeu qui a marqué sa génération.
Shadow Giant.
Putain, c'est...
Vous l'avez fait exprès.
Oui.
Ils sont en symbiose.
Vous vous êtes entendu, hein? Non, vous l'avez fait exprès.
Même pas.
Donc, nous allons écouter un morceau qui s'appelle In the Presence of the Krazoa Spirit, de la bande originale de Star Fox Adventures.
Ah putain, non. Oh, il se fait du mal.
Parce que j'ai aucun self-respect. Voilà, ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes. À tout de suite. Nous allons donc parler de la GameCube et on va commencer par tout ce qui est hardware, tout ce qui est dur, tout ce qui est la chose dure,
tout ce qui est hard,
tout ce qui est très hard.
Bienvenue au journal du hard.
Putain, si on lance un jour une émission consacrée au hardware, il faut l'appeler le journal du hard. Je pense qu'il y a moyen de faire recette. Absolument que je vois si la chaîne YouTube est prise pour la préempter tout de suite. Bref. Donc, première console de Nintendo à utiliser des disques, des mini-disques, qui aujourd'hui encore, moi, me surprennent à chaque fois que tu ouvres un jeu GameCube et que tu regardes la toute petite rondelle, c'est toujours très 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 rigolo, je trouve.
Comme chez tes enfants.
Quoi ?
Non, vas-y, continue. C'est
suffisant. Il disait que tes enfants aussi avaient une petite rondelle.
Oui, c'est bien ce que j'ai cru comprendre. Non, mais je sens que cette émission est complètement partie un petit peu en couille. Et ça va bien, ça va très très bien. Cette manette...
Meilleure manette du monde. Jamais. Toujours utilisée, trois générations après.
Manette officielle de Smash.
Manette officielle, ouais. Toujours de Smash Bros. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce qui... Enfin, la première console de Nintendo utilisait une carte mémoire. Enfin, la deuxième, ouais, on va dire, là où la carte mémoire était indispensable. Parce que sur un 64, il y avait des cartes mémoire, mais c'était vraiment pour les pauvres. Non, mais c'était pour les jeux des éditeurs tiers qui voulaient pas mettre de batterie pour pas augmenter le prix du jeu, quoi. Donc on va être très clair, c'était quand même une solution assez peu utilisée. Une poignée à l'arrière pour pouvoir la transporter, puisqu'on nous a rappelé que la portabilité a commencé avec la GameCube. Moi, j'ai jamais compris pourquoi il y avait une poignée à l'arrière. Je veux dire, ça à part augmenter les frais de douane.
C'est trop bien la poignée.
D'accord. Alors, explique-nous pourquoi c'est trop bien, Drosgar.
Mais parce que tu peux la transporter, et du moment que t'as des câbles assez longs, bah tu peux l'emmener tranquillement aux toilettes avec toi si tu mets ta télé sur un petit truc avec des roulettes.
Non, voilà, merci, Drosgar. Je pense que... Non, mais j'ai l'impression que c'était
si tu veux frapper quelqu'un avec...
Oh, pas mal, ça.
Ah, oui, c'est effectivement, ça peut servir de projectile aussi, hein, beaucoup plus facile à lancer qu'une
d'ailleurs, on parle de frapper quelqu'un, Drosgar...
Déjà ?
Non, on va attendre un peu...
Non mais en vrai il y a un culte autour de la poignée sur internet autour de la poignée de la...
Non tu te fous de ma gueule.
Non mais si.
Il y a un culte ou il y a un culte?
Les deux. Il y a un inculte qui en parle, mais il y a aussi un culte.
Arrêtez. Vous me faites mal. Vous me faites très mal au cerveau là. Non mais c'est un design très rigolo, en plus une console extrêmement compacte par rapport à la concurrence. C'est à dire que la PS2 avait un design de radiateur noir moche. La Xbox, j'en parle même pas, chaque fois que je vois une Xbox sur une brocante, je m'amuse à la soulever pour me rappeler à quel point elle fait 8 kilos la console, enfin c'est juste ignoblissime. Et la GameCube à côté, la GameCube, t'as une petite console toute mignonne, toute belle, avec sa petite poignée qui ressemble vraiment à un cube pour le coup, parce qu'elle est pas tout à fait cubique, mais pratiquement, qui fait très peu de bruit. Quand tu mets le Game Boy Player, elle est quasiment cubique, c'est pareil, ça la rehausse un petit peu. Je sais pas, vous, quelle est votre première impression quand vous l'avez vu, quand vous l'avez eu en main, quand vous avez pu toucher la manette?
Alors, moi je suis passé de la PS2 à la GameCube. En fait, c'est la GameCube qui m'a fait revenir chez Nintendo. Et la première impression que j'ai eue, c'était le silence. Parce que je suis passé de la PS2 fat à la GameCube. Et la PS2 fat, elle était bruyante.
Bruyante à ce point-là ?
Ah, la PS2 fait du bruit, oui.
Ouais, la première PS2 fait du bruit. Et c'est vrai que quand j'ai allumé la GameCube la première fois, j'ai à peine entendu le ventilateur.
Il faut dire que le ventilateur est extrêmement discret aussi.
Et surtout, les gâchettes de la manette qui sont vraiment... tu mets les doigts dedans, ils n'ont plus envie de sortir.
Ce que me disait ta sœur hier soir... Ça, c'est fait. Excusez-moi.
Bravo.
Non, mais ça va, c'est bon, on a le droit aussi une fois de temps en temps, quoi. Oh.
Bon, je vais avoir des enfants, par contre, la sœur de Zergy, y a pas de soucis. Hein.
Tant que c'est pas les moments...
Je sais pas si Zergy a une sœur, j'espère que non.
Mais par contre, les gâchettes, j'ai toujours trouvé bruyantes et c'était embêtant quand on était enfant. Parce que oui, moi j'ai connu la GameCube enfant et qu'on devait y jouer le soir et qu'on devait pas réveiller les parents parce qu'on devait pas faire de bruit. Et du coup, c'est compliqué de servir des gâchettes correctement.
Les souvenirs de Drosgar. Alors tu rigoles, mais j'ai fait le montage aujourd'hui du direct qu'on avait fait le 30 décembre 2016 pour vous dire à quel point on est en avance sur notre temps parce qu'on a juste 5 mois de retard sur à peu près tout. Et j'ai fait le montage on avait fait un direct sur Rogue Squadron 3 Rebel Strike, et je me suis rendu compte, mais ces putains de gâchettes font effectivement un boucan d'enfer, en fait, on entend quasiment que ça dans tout le
direct.
Mais
oui, c'est insupportable.
C'est pas insupportable, mais enfin, c'est vrai que je me rappelais pas que ça faisait autant de bruit, ça me choquait pas quand j'étais petit, et là, maintenant, effectivement, à le réécouter, c'est assez atroce.
Mais lorsqu'on est dans le jeu, après, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que les gens extérieurs qui entendent que ça, Je comprenais pourquoi ma mère gueulait.
Bah c'est, oui, effectivement, le bruit est un peu agaçant. Mais en même temps, c'était un peu révolutionnaire, ces gâchettes analogiques. Je ne sais pas si la PS2 avait des gâchettes analogiques. Parce qu'il me semble que tous les boutons de la PS2 étaient analogiques, mais c'était genre...
Ouais, il paraît, mais t'as pas de course, en fait.
Oui, t'as pas de... la PS2, c'était pas le cas, c'était pas vraiment analogique. C'était vraiment des boutons... un peu comme Nintendo fait maintenant sur ses consoles, d'ailleurs.
Oui, ils se font plus chier. Enfin bref, c'était un peu... C'était un peu... D'ailleurs, je sais pas pourquoi Nintendo a abandonné ça, parce que finalement, alors à part le côté un peu bruyant, c'était quand même non seulement très confortable, comme l'a dit Zergy, un peu bruyant, certes, mais très pratique pour certains jeux. Donc je me suis quand même... Enfin, je me pose encore la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont abandonné ça, alors que... Le seul défaut, finalement, de cette manette, c'est le bouton Z, qui était pas très accessible, et puis pas très pratique pour appuyer dessus, et qui, au final, était pas symétrique par rapport à... Il n'y a pas de bouton Z1, enfin...
Il manquait un truc, quoi.
Il manquait un petit bout, c'est peut-être le seul truc que j'aurais reproché. La croix était un petit peu petite aussi, il faut quand même être parfaitement honnête, même si elle servait quasiment pas. Je crois qu'il y a un seul jeu dont je me rappelle, où je me suis servi de la croix, parce qu'il n'y avait pas autre chose, c'est Mortal Kombat Deadly Alliance, où tu étais obligé de te servir de la croix. Ce qui fait que c'était quand même pas super pratique, on va dire. Mais on s'y habitue aussi, hein, je veux dire, ça reste quand même très jouable. Bref, en termes de hardware, pas grand-chose à lui reprocher. En termes de puissance de feu, il y a quand même quelque chose qui était... Enfin, elle était bien membrée, j'ai envie de dire.
Bah, ça n'était pas la plus puissante par rapport à la Xbox, mais elle avait surtout un énorme avantage, je trouve, par rapport à la PS2, c'est les temps de chargement qui étaient très très réduits.
Pour une raison, enfin pour plusieurs raisons en fait. D'abord, le lecteur optique qui est dedans n'est pas un lecteur DVD, c'est un lecteur propriétaire qui utilise une technologie qui est proche du DVD, mais c'est pas du DVD. C'est un lecteur qui est fait par Matsushita et qui a une énorme mémoire cache, donc il y avait effectivement peu de temps de chargement. Et en plus, les disques tournent, c'est une technologie de vitesse angulaire fixe qui fait que en fait les données se chargent très très vite. Et le fait que le disque ait une taille réduite, ça aide aussi, parce qu'évidemment les données qui sont sur l'extérieur d'un DVD sont beaucoup plus éclatés que les données qui sont sur le centre d'un DVD. Voilà. Donc c'est l'organisation des données sur le disque, la façon dont le spinner du disque fonctionne en fait, font que effectivement les temps de chargement sont extrêmement réduits, ce qui est un gros avantage, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que je pense que Nintendo a bien vu qu'avec la PlayStation, la Saturn, enfin les gens, les temps de chargement, ils s'en foutaient un peu, quoi, tant que c'était pas totalement abusé au final.
Ah ouais, c'est... Après, je crois que c'était... Il paraît que c'était Yamauchi qui avait vraiment insisté pour limiter ce genre de choses. Et mine de rien, c'était ça... Le limiter le temps de chargement, c'est quand même un certain confort de jeu. Enfin, moi, je me souviens Super Smash Bros. Brawl qui avait des temps de chargement parfois un peu élevés par rapport à Melee. Ça t'enlève un peu en confort de jeu au bout d'un moment, quoi. Surtout quand t'as une base que tu connais déjà.
Bah, moi, je me rappelle surtout de jeux un peu impressionnants comme Metroid Prime, où tu n'as quasiment pas de temps de chargement.
Alors, si, ils sont tous masqués.
Oui, ils sont tous masqués, mais c'est ça que je veux dire, ils sont tous masqués, et les mecs ont le moteur du jeu, en fait, précharge les salles quand tu t'approches des portes, quand tu tires dessus, ils chargent les derniers éléments avant que tu puisses entrer.
Ouais, et des fois, la porte, elle met du temps à s'ouvrir.
Exactement, oui, parce qu'elle n'a pas fini de tout charger.
Ça fait partie du truc un peu relou. Dans Metroid Prime.
Oui, tout à fait, dans Metroid Prime, ça fait partie du truc un peu relou. Et un autre petit accessoire dont j'aimerais parler, parce que je trouve qu'il a quand même un intérêt, c'est tout ce qui est Game Boy Player. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Wii, enfin les premières Wii en tout cas, étant 100% rétro-compatible GameCube, ça avait peu d'intérêt au départ de continuer à garder sa GameCube. Je veux dire, les manettes se branchaient sur la Wii, les cartes mémoire se branchent sur la Wii, c'est la même architecture, on en parlera un tout petit peu après. Donc finalement, garder une GameCube, ça avait peu d'intérêt, sauf pour le Game Boy Player, héritier du Super Game Boy, mais qui est capable de lire Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Alors, c'est pas une révolution en soi, mais c'est vrai que c'est un accessoire qui est quand même extrêmement pratique. Alors, je sais pas si vous en possédez ou si vous en avez possédé un.
Alors, j'en ai eu un, parce que c'est vrai que 60€ pour pouvoir jouer à des jeux Game Boy Advance, c'était quand même plutôt sympa. Mais à partir du moment où j'ai une Game Boy Advance SP, j'y ai plus touché parce que j'en avais plus vraiment d'intérêt.
Plus d'utilité du tout ou...
Bah, en fait... La Game Boy Advance SP, ça restait quand même une très très bonne machine portable qui ne m'obligeait pas à devoir utiliser la télé, qui pouvait squatter par la famille. Et donc forcément pour moi c'était quand même beaucoup plus pratique, c'était un support de jeu plus adapté que le Game Boy Player.
Alors je sais pas, Drosgar, Game Boy Player, jamais ?
Jamais, j'avais un copain qui l'avait, mais bah je voyais, enfin personnellement je voyais pas l'intérêt, parce que déjà ça faisait un coût supplémentaire à l'achat, et surtout que pour moi déjà le problème de la console de salon c'est de devoir scotter la télé familiale, là encore comme a dit Antix, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai plein de jeux de console de salon de retard, alors que mes jeux de console portable j'ai déjà tous bien retourné en général, donc pour moi c'était vraiment, enfin je comprenais l'intérêt pour certains, mais pour moi il y avait aucun intérêt d'acheter ça.
Zergy, jamais eu de Game Boy Player non plus ?
Si, j'en ai un. Je m'en suis un petit peu servi, mais je joue pas trop à mes jeux. Je joue pas trop avec mes jeux GBA actuellement.
D'accord. Ok, non, c'est voilà, l'accessoire mérite quand même d'être signalé. Je trouve. Enfin, il est pas très élégant, mais il a quand même une élégance de design en soi, parce qu'il se colle juste sous la GameCube en utilisant un des ports qui est en dessous. Et surtout, il contient tout le hardware de la Game Boy Advance, en fait. Donc c'est pas de l'émulation, c'est vraiment de la rétrocompatibilité matérielle. Donc en réalité un Game Boy Player quand on le démonte, et ben on a exactement une Game Boy Advance avec un port de cartouche, un machin. La seule différence c'est qu'effectivement tout ce qui est son et image en gros est balancé vers le GameCube sur lequel se tient. Non ça veut rien dire. Attendez, sous laquelle.
Si, bref, c'était on bien. S'en bat les Attends, coups. Ouais.
Non ça marche pas. Ça marche pas, voilà, on n'y arrive pas, ça marche pas.
Bravo Mortal.
Je voulais juste finir avec l'architecture GameCube, qui est quand même un petit peu particulière, parce qu'on a un IBM PowerPC, Flipper, si je dis pas de bêtises, le processeur principal, qui était aidé...
Flipper the Dolphin.
Exactement.
Ça s'appelle Flipper. Nom de code de la console.
Nom de code de la console.
Et ouais.
Alors, Flipper, c'est le GPU, et le CPU, c'est Gecko.
C'est Gecko le GPU, c'est ça, c'est Gecko le CPU et Flipper le GPU. Merci Zergy pour la précision, effectivement c'est important. Donc le processeur principal par IBM et le GPU par AMD. Donc c'est vrai que ça faisait bizarre aussi sur une console Nintendo de voir IBM et AMD, il y a deux petits autocollants un peu discrets sur la console pour préciser ça. C'est quand même une architecture qui est restée chez Nintendo puisque la Wii se base sur la même architecture avec le CPU qui s'appelle Hollywood et le GPU qui s'appelle Broadway, mais qui basiquement sont juste des versions boostées de Flipper et Gecko. Donc c'est vraiment exactement le même matériel, simplement on a multiplié par deux les fréquences. Et la Wii U se sert également exactement de la même architecture, simplement on a multiplié le nombre de cœurs et aussi boosté un petit peu la fréquence, avec je crois que c'est Café et... je sais plus comment s'appelle le GPU.
Latte et Expresso.
Latte et Expresso.
C'est le CPU et Latte c'est le GPU.
Merci beaucoup Zergy.
Après, j'ai vu, il y a deux GPU dans la Wii U. Il y en a un qui sert à l'émulation Wii et l'autre pour la version et l'autre pour la Wii U.
En fait. Tout à fait, parce qu'en fait, Espresso contient un cœur Broadway à l'intérieur, parce que c'est une architecture un peu particulière qui fait que effectivement, c'est pas tout à fait le même GPU. C'est le même CPU, ça c'est sûr, mais c'est pas tout à fait le même GPU.
J'aime beaucoup cette discussion de Broadway dans des Espresso avec des geckos.
C'est compliqué. Hein.
Non, mais merci Nintendo de nous envoyer du rêve comme ça.
Moi, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que la GameCube a quand même un sacré héritage. C'est quand même une architecture qui a vécu 3 générations de consoles. Et je rappelle que, même si c'est pas officiel, il y a moyen de jouer à la GameCube sur Wii U.
Oui. En piratant le mode Wii.
En piratant le mode Wii. Mais c'est pas de l'émulation, c'est purement une solution hardware. Donc on a bien, à l'intérieur de chaque Wii U, il y a bien une Wii, et donc une GameCube. Et moi je trouve ça assez extraordinaire de voir que cette architecture-là a finalement survécu entre guillemets plus longtemps que la console elle-même.
C'est pareil sur les consoles portables de Nintendo d'ailleurs, parce que je crois que sur 3DS tu retrouves des trucs qui datent de la Game Boy dedans.
T'as le même processeur puisque c'est de l'ARM, sur 3DS, sur DS et sur Game Boy Advance c'est de l'ARM, et effectivement tu as plein de morceaux. C'est-à-dire que sur la DS, le processeur qui servait à faire la partie Wi-Fi sur la première DS, en tout cas le processeur qui servait à en fait de carte contrôleur en gros, c'est-à-dire qui s'occupait de faire la partie interaction avec le Wi-Fi, interaction avec la carte son, l'interaction avec les boutons, les trucs comme ça, ce processeur-là c'était le processeur central de la Game Boy Advance. Donc les mecs ont réutilisé comme chipset en gros de la carte mère de la DS, il y avait le CPU de la DS, comme chipset de ce CPU, ils ont utilisé celui de la Game Boy Advance. Ce qui finalement est un design très très proche de ce qu'avait fait Sega avec la Mega Drive, où ils avaient utilisé le processeur central de la Master System comme chipset contrôleur pour la Mega Drive. C'est pas idiot comme solution. Mmh. Et voilà, c'est plutôt élégant même d'un point de vue hardware, même si ça doit pas être si évident que ça à faire.
Bon, c'était bien de parler d'hardware, mais parlons de soft maintenant.
Voilà.
Alors, juste avant de parler de soft, il y a Galaxis qui demande quel était le prix, enfin non, qui demande plutôt si la GameCube était abordable à sa sortie.
250 euros de
question.
Mémoire, non.
Alors,
ils l'ont baissé 250 rapidement.
Voilà, c'est ça.
Non, c'était annoncé en Europe à 249 euros.
Et ça c'est descendu à 200 avec la baisse de prix de la Xbox, c'est ça?
C'est descendu à 199 euros un mois avant sa sortie. Ce qui fait que le Dojo avait même fait sa une sur 199 euros en disant que Nintendo avait fait un sacré coup de génie. Moi, je sais qu'à l'époque, ça m'a vachement intéressé parce qu'à 249 euros, j'avais les moyens de m'acheter la machine, mais j'avais pas les moyens de m'acheter un jeu avec. Et à 199 euros, j'ai pu acheter Rogue Squadron. Donc j'étais quand même très content de la baisse de prix, et je pense que tout le monde était très content de la baisse de prix. Et je crois que tout le monde avait un gros doute parce qu'en fait, l'euro-dollar à cette époque-là, l'euro était lancé depuis très peu de temps finalement, ça faisait quelques mois. Et l'euro-dollar était plutôt largement en faveur de l'euro, qui était vraiment pas cher par rapport au dollar. Et du coup, elle était à 199 dollars, et tout le monde pensait que Nintendo Europe allait la sortir à 249 euros, parce qu'en fait, c'était à peu près ça la parité. Et pour une fois, la parité nous a pas baisé, ce qui est quand même pas souvent le cas. Donc on l'a eu à 199 euros.
Sachant qu'elle a baissé de prix assez rapidement, assez rapidement. Au bout d'un an et demi, je crois, un an et demi, deux ans, à 99 euros, ce qui est vraiment pas cher pour une console de salon.
Ce qui est vraiment pas cher, et surtout, il y avait des packs super intéressants au bout de deux ans, puisqu'il y a eu le pack Mario Kart, il y a eu un pack Resident Evil 4, il y a eu un pack super rare, d'ailleurs, si vous en avez une, je vous conseille de vous y accrocher, parce qu'elle vaut très cher.
Ah ouais, c'est ceux qui ont fait Super Donkey Kong.
Pardon ?
C'est ceux qui ont fait Super Donkey Kong ?
Non.
Ah, j'aurais tenté au moins.
Tu sors. Non, il y a eu un pack qui était vraiment pas évident à choper, qui était le pack Tales of Symphonia.
La console était verte et brode de mémoire.
La console turquoise.
C'est ça, avec la console turquoise et avec un, tu sais, il y a le logo du dessus. En fait, le logo GameCube du dessus, ça se démonte et on peut le changer. En fait, on peut marquer GameCube, on peut marquer d'autres trucs. Et là, il y avait le logo Tales of Symphonia avec un petit bout de la jaquette du jeu et tout ça. C'était quand même assez sympa. Il y en a une super rare aux États-Unis aussi qui a le petit logo Metroid Prime. Parce qu'il y a eu un pack Metroid Prime, je ne sais pas si ça comptait Metroid Prime 1 et 2, j'ai un gros doute.
Je crois que c'était à l'époque du premier seulement.
C'est possible que ce soit à l'époque du premier. Donc il y a eu beaucoup de packs, et en fait 99 euros, c'était vraiment le prix de la console nue avec une manette, et même pas de carte mémoire. Donc le pack de lancement finalement que moi j'avais acheté 199 euros, c'était la console, une manette et c'est tout. Et en fait, les packs à 149 euros, c'était la console plus un jeu, et c'est à ce prix-là, c'était quand même sacré à faire. Après, il faut dire que la GameCube ne se vendant pas du tout, ayant de grosses difficultés à trouver preneur, bah forcément...
Ah oui, non, parce qu'on parle de l'échec de la Wii U, mais la GameCube a cumulé à peu près 23 000 ou 25 millions d'exemplaires.
C'est mieux que la Wii U.
Ce qui est mieux que la Wii U, mais c'est moins bien que la 64, qui est considérée comme un échec.
Ouais, non, ça a été une période assez dure pour Nintendo. D'ailleurs, on en a discuté assez souvent, mais c'est vrai que la GameCube, en fait, sur les deux ou trois premières années, donc de 2002 à peu près 2005, les jeux d'éditeurs tiers sortaient dessus sans problème. C'est-à-dire que tous les jeux multiplateformes sortaient sur Xbox, sur PS2, sur GameCube. En général, la version PS2, c'était la version qui tournait à 15 FPS. La version Xbox, c'était celle qui tournait à 30 FPS. Et la version GameCube était un peu entre les deux. C'est à peu près comme ça que faut le voir, où était un tout petit peu moins belle que la version Xbox. Et à partir de 2005, ça a commencé à être un peu la traversée du désert, 2005-2006, où il y avait les exclusivités de Nintendo, il y avait encore quelques éditeurs qui sortaient leurs jeux sur PS2 GameCube ou sur Xbox et GameCube, mais de moins en moins. Et il y avait de moins en moins de jeux, et c'est vrai que les deux plateformes de prédilection, c'était quand même la PS2 et la Xbox. La PS2 parce que c'était un gros succès en Europe et au Japon, et la Xbox parce que c'était un gros succès aux États-Unis.
Et que ouais, une bonne partie des jeux tiers qui étaient multiplateformes étaient des jeux occidentaux. Les Japonais privilégiant largement la PS2.
En effet. Voilà. Je vous propose de marquer une deuxième pause musicale.
Après le hard, on va passer à du soft.
Après le hard, on va passer à du soft. Donc ça va être le dimanche soir sur M6. Excusez-moi. Voilà. Nous allons donc écouter un morceau d'un jeu qui a marqué son époque. Qui a révolutionné un petit peu d'abord la franchise, Ensuite, qui a permis à son développeur d'atteindre vraiment des sommets d'excellence et d'ailleurs de prendre son indépendance, enfin d'aller partir vers d'autres horizons. Nous allons écouter un morceau de la bande originale de Star Fox Adventures.
Ce sale troll.
Remboursé.
Le morceau, alors c'est un des rares bons morceaux de la bande originale de Star Fox Adventures qui contient en fait des morceaux qui sont juste très chiants. Mais celui-là est pas trop mal, ça s'appelle Thorntail Holiday, en fait c'est la première zone du jeu. Et il y a trois versions de cette musique, en fait il y a la version nuit, la version jour et la version crépuscule en gros, enfin crépuscule et aube. Là c'est la version jour et c'est plutôt un morceau assez réussi en fait, ça c'est pas souvent qu'on peut le dire parce que Star Fox Adventures il y a peu de choses réussies. Mais là c'est plutôt pas mal, voilà ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes, on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Après une deuxième pause musicale, parce que on a beaucoup de jeux dont on souhaiterait parler. On va essayer de passer assez rapidement sur chaque jeu. Je suis désolé, j'aimerais bien qu'on pourrait. Il y a certains jeux qui mériteraient pratiquement qu'on fasse des émissions entières, et ce sera peut-être le cas. Je pense notamment quand on fera les 10 ans de Metroid Prime, et ça va être dans pas si longtemps que ça. Aux alentours de. Ah non, c'est déjà passé les 15 ans de Metroid Prime.
Et c'est l'année prochaine, ça.
C'est l'année prochaine, les 15 ans de Metroid Prime?
En Europe, oui.
Putain! Bon bah voilà, rendez-vous l'année prochaine. Pour moi, c'était plus tard que ça, mais je me trompe peut-être. Je confonds peut-être avec Metroid Prime 2, en fait. C'est pas impossible.
Prime 2, c'est 2005.
D'ailleurs, j'ai oublié d'un point de vue hardware aussi, c'est la première fois qu'on avait du 60 Hz officiellement en Europe.
Oui. Chose importante. D'ailleurs, c'était un 60 Hz qui marchait souvent mieux que sur les 60 Hz des consoles concurrentes.
Ça, c'est clair. Donc, non, mais c'est un truc bête, mais c'est un truc à noter quand même. Il y a certains jeux, notamment Metroid Prime 2, qui ne marchaient pas en 50 Hz. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été adaptés pour le PAL 50, ils sont sortis en PAL 60.
Directement.
Exactement. Donc,
bon,
c'est
parlons jeu.
C'est quand même à noter. Parlons jeu. La liste est un peu dans le désordre, donc c'est pas forcément une liste du plus mauvais au meilleur ou tout ça. C'est juste, voilà, on a tout mis dans un grand chapeau. On les a sortis, on vient de refaire un petit tri en se disant, bon, il y a quelques jeux qui ne sont peut-être pas si indispensables que ça, ça mérite d'être mentionné, mais peut-être pas d'en parler.
C'est aussi que parfois on a déjà parlé avant aussi.
Et il y en a quelques-uns dont on a effectivement déjà parlé avant. Je vais commencer avec Antix, qui tenait absolument à parler de Baton Kaitos 1 et 2. Alors, Baton Kaitos, The Wing of Machin and the Eternal Bidule.
Les ailes éternelles et l'océan perdu, et Baton Kaitos Origins pour le second.
Voilà, ce qui est quand même plus simple comme titre.
Qui, dans ses versions japonaises, s'appelle Les ailes du commencement et l'héritage des dieux.
Putain, la vache. Nique ta mère, Baton Kaitos.
Et du coup, aux États-Unis, ils ont fait oh, non, on va pas l'appeler comme ça, on va l'appeler Baton Kaitos Origins. Allez.
Voilà. Alors, Baton Kaitos, moi, le souvenir que j'en ai, j'ai eu le disque promo par Nintendo France. Et c'est mon frère, en fait, qui l'a totalement torché, et moi, je comprenais à peu près rien au jeu, parce que je suis beaucoup trop con pour jouer à un RPG. Néanmoins, c'est quand même une curiosité, un jour, j'aimerais bien m'y mettre, mais voilà, Antix, peux-tu nous faire un petit résumé de pourquoi Baton Kaitos Origins est un de tes jeux préférés de la machine?
Alors, bon, je vais revenir un peu sur les deux premiers, enfin, les deux Baton Kaitos de manière générale, en fait, qui sont des jeux créés par Monolith Software, d'un côté, notamment sur la partie scénario et monde et mécanique de manière générale. Donc Monolith, ce sont les anciens de Square Enix, qui ont notamment, enfin de Squaresoft, qui ont bossé sur Xenogears et Chrono Cross, et qui bosseront plus tard sur Xenoblade. Ça c'est pour la partie Monolith, et l'autre studio c'est Tri Crescendo, qui est surtout connu, enfin qui est pas très connu en fait, c'est des anciens d'une boîte qui s'appelle Tri-Ace, qui est spécialisée elle aussi dans le RPG.
Ah mais c'est pas eux qui font Call of Duty?
Non. C'est Tryhard, Try machin. Enfin bref.
C'est pas eux qui font Call of Duty alors?
Non, c'est pas eux. Bref, et Tri Crescendo s'est surtout occupé de la partie combat, puisque le studio Tryhard, donc son origine, est vraiment connu pour les systèmes, pour des systèmes très dynamiques et la partie sonore, notamment la musique où ils ont ramené Motei Sakuraba. Et donc, c'est deux jeux qui qui se caractérise avant tout par des mondes extrêmement fouillés. Enfin, la direction artistique de ce jeu est absolument géniale. C'est un monde où les îles, enfin, qui est composé uniquement d'îles qui sont dans le ciel.
Et ce qui est bien pratique pour surtout pas faire un monde ouvert et faire un truc bien découpé.
Voilà. Du coup, c'est très, enfin, ça paraît assez découpé. Et d'ailleurs, ça renforcé par le fait que tout est en précalculé, donc c'est tous les décors précalculés, ce qui est les méthodes des Final Fantasy sur la première PlayStation. Donc ça, on a des plans fixes, mais du coup, les décors sont vraiment magnifiques. Enfin, ils tiennent encore, je pense, largement ils sont encore largement d'actualité en termes de qualité à l'heure actuelle. Et surtout, c'est un monde où tout le monde utilise des cartes qui s'appellent les Magna pour pouvoir transporter ces objets. En fait, ils peuvent absorber l'essence d'un objet dans des cartes, et ça va se faire en jeu, en fait, où il y aura beaucoup de quêtes annexes. Ça va être d'emmener les cartes d'une personne à une autre, sachant qu'en plus, elles évoluent sur la durée. Du lait va se transformer en beurre, puis en fromage, par exemple. Et surtout, on va utiliser des cartes pour se battre. Chaque personnage aura un deck, et il faudra enchaîner les cartes, des combinaisons de cartes, pour pouvoir faire plus de dégâts.
Ah, mais du coup, c'est comme les Magic.
Exactement, exactement, Mortal. Sauf qu'en fait, t'as que des épées, enfin, t'as que des armes en guise de cartes. Donc ça, c'est le premier Metan Ketos, qui se caractérise aussi par une histoire vraiment chouette, une excellente bande-son, je trouve. Enfin, c'est une de mes bandes-sons préférées de jeux vidéo, qui est extrêmement variée, avec du rock pour la baston, et des trucs beaucoup plus calmes, et un peu musique du monde pour tout ce qui va être univers, sachant qu'il y a énormément de décors à illustrer, qui sont tous très différents. Mais le jeu n'était pas parfait, notamment les combats qui étaient assez longs et un peu soumis à l'aléatoire. Et donc en 2006, c'est sorti une suite qui aura été financée par Nintendo, donc comme le sera Bayonetta 2 plus tard, toujours développée par la même équipe, et qui s'appellera donc Baten Ketos Origin, qui racontera en fait ce qui se passe 20 ans avant le premier épisode, avec une histoire qui est beaucoup plus sombre, je trouve beaucoup mieux rythmée aussi, et surtout un système de combat qui est absolument génial. Enfin, j'ai pas retrouvé un truc aussi chouette depuis. Ils ont modifié énormément de choses par rapport au premier Baten Ketos, notamment il n'y a plus de tours de défense comme ça pouvait être le cas. Il y a moyen de jeter des cartes de son deck qui ne te servent pas, donc c'est beaucoup plus facile de faire les enchaînements que tu veux. Et du coup, tu as des combats qui peuvent se finir en absolument en 30 secondes, et qui sont hyper dynamiques, assez stratégiques, et qui en mettent vraiment plein la gueule. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore ce jeu.
Et donc, ça vaut le coup d'aller prendre un je sais plus comment ça s'appelle, le disque qui permet
le freeloader,
voilà. Et d'aller choper un Baten Ketos Origins américain, parce que en réalité, qui doit contenir le texte en français, je suppose.
Non, le jeu n'a été traduit qu'en anglais.
Ah putain.
Ceci dit, je trouve que déjà il a un excellent doublage, alors que le premier était particulièrement mauvais de ce côté-là. Mais lui, il était traduit en français. Pour compenser. Donc le jeu est intégralement en anglais. Je sais que j'y avais joué pour la première fois quand j'étais au lycée, et il fallait un petit peu s'accrocher sur certains termes.
Moi, je joue un petit peu sur l'émulateur, ça se fait quand même.
Ouais, non, ça se fait, hein, clairement. Mais c'est vraiment un jeu qui est très très chouette. Donc je le conseille si vous voulez découvrir un excellent RPG sur GameCube. Enfin, moi, je pense que c'est mon RPG favori. Parce qu'il est, il fait une cinquantaine d'heures, il est vraiment généreux, et vraiment tout dans le jeu est quasiment, enfin, je trouve, excellent. À part 2-3 trucs qui ont vraiment vieilli, comme la mise en scène, il se joue encore très bien aujourd'hui.
On va passer au deuxième jeu de notre sélection, parce qu'on est bien étalé. Il s'agit de Super Smash Bros. Melee. Voilà. Je pense pas être le seul à avoir joué à Super Smash Bros. Melee, parce que c'est quand même un jeu historique qui est encore joué aujourd'hui en tournoi, qui est encore une référence. Enfin, c'est quand même un jeu qui est associé durablement aujourd'hui à Nintendo et aux jeux de baston. Et enfin, je sais pas, c'est un jeu qui a une aura absolument extraordinaire 15 ans après, qui était une claque technique absolument monumentale à l'époque.
En plus, quand t'as connu la version 64, c'est vraiment le jour et la nuit entre les deux jeux.
C'est complètement la folie visuellement.
C'est vrai que la version 64, c'est un peu le prototype.
Bah, non seulement c'est un petit peu le prototype, mais en plus, Smash Bros. 64 a eu un succès un succès raisonnable pour un jeu N64, ouais. Je veux dire, c'était pas non plus la folie, mais voilà. Melee a vraiment amené ça à un tout autre niveau. Le jeu n'a quasiment pas de bug,
Quasiment pas de bug, on n'ira pas jusque-là, mais
il y en a très 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 peu.
Il est extrêmement bien fini, en fait. C'est une grande qualité.
T'as un niveau de finition qui est juste complètement fou, quoi. Avec les 250 trophées. Enfin, t'as du contenu. T'as un niveau de finition qui est vraiment digne d'un jeu Nintendo sans aucun problème. Il est magnifique. Et en plus, c'est jouable. C'est ultra jouissif. C'est un gameplay qui est hyper accessible. C'est ce que moi j'appelle un vrai jeu vidéo. C'est-à-dire, il faut 10 secondes pour arriver à comprendre le principe. Il faut des années pour arriver à le maîtriser.
Oui, d'ailleurs, de ce côté-là, il paye pas de mine par rapport à d'autres jeux de combat, comme Street Fighter. D'ailleurs, Melee, pour moi, c'est un peu l'équivalent de Street Fighter 2 pour la série. C'est-à-dire que le premier est pas anecdotique, mais pas loin. Le second pose vraiment toutes les bases qu'il y aura dans les suites, quoi.
Ah, complètement, c'est vraiment là où tu as à peu près tout. C'est-à-dire que le seul truc qui manque, qui devait être implémenté, c'est-à-dire qu'il y a des bêtas du jeu qui tournent dans lequel il y a le Final Smash. Il était déjà prévu sur Smash Bros 64.
Ah ouais, déjà ?
Il était déjà prévu, en fait, il y a des bouts de code qui traînent pour le Final Smash, et il y a des morceaux d'animation de Final Smash qui traînent dans la ROM du jeu. Donc on sait que c'était prévu. On sait que c'était prévu pour Smash Bros Melee, parce qu'il y a des versions bêta dans lesquelles on a déjà des Final Smash. Et en fait, ça a été retiré du jeu final, parce que je pense que ça n'a pas eu le temps d'être fini, mais c'est vrai qu'il a posé les... Enfin, le Smash Bros sur 64 avait... poser un certain nombre de bases de gameplay, je pense que ça a été affiné de manière... Enfin, ça a été vraiment ultra affiné sur le Melee qui a vraiment donné toute son identité à la série, et finalement tous les autres Smash, que ce soit Brawl ou que ce soit Smash 4, sont les héritiers directs de Smash Bros Melee. On peut essayer de faire ce qu'on veut, mais ça reste quand même LE jeu de référence.
Ah, et puis surtout, c'est l'impression que j'ai en jouant aux épisodes qui suivent, c'est qu'au final, ils vont surtout essayer d'en rajouter, plutôt que d'ajuster ou de modifier des choses. Alors moi, j'ai toujours cette impression, en jouant à Brawl et à Smash 4, que sur certains éléments, comme les objets, les stages, il y a une impression de genre de trop-plein avec des trucs encore plus explosifs et compagnie. Là où Melee avait réussi à se faire un excellent équilibre entre les objets forts, les objets faibles, les trucs un peu au milieu, quoi. Enfin, ça, c'est un exemple. C'est souvent les objets que je trouve, à partir de Brawl, sont complètement pétés, alors que dans Melee, il y avait vraiment un équilibre.
À part le marteau, quoi.
Mais même le marteau était pas si fort, parce que tu pouvais avoir le marteau où des fois la partie métallique s'en allait, et du coup t'étais dans la merde.
Oui, t'avais l'air d'un con.
Et t'avais pas des trucs genre le Final Smash, les trois parties du vaisseau de Kirby à récupérer, et le marteau doré, et ce genre de
mais
trucs.
Mais finalement, c'est une version presque... comment dire, Less is More, c'est-à-dire finalement une version un peu plus épurée, c'est-à-dire que
ils ont
fait que rajouter des couches, mais finalement cette version d'origine, c'est pas la version d'origine, mais cette seconde version, c'est la version qui est entre guillemets la plus aboutie, non pas parce qu'elle rajoute des choses, mais parce qu'au contraire elle garde une espèce de forme de gameplay très pure.
Elle conserve l'essentiel. Alors elle a quelques défauts, notamment beaucoup de clones dans le casting, enfin des personnages comme Pichu, Dr Mario qui sont un petit peu dommages. Et c'est aussi un jeu qui a été pour beaucoup de joueurs, je pense, en tout cas de ma génération et celle de Rosgar, qui a permis de connaître l'existence de nombreux personnages de Nintendo. Enfin, moi, je sais que Samus, je l'ai découvert dans le premier Smash Bros. Les personnages de Fire Emblem, il n'y aurait pas eu Melee. Je pense que... Melee fait partie des raisons pour lesquelles on a eu Fire Emblem en Europe, entre autres. Donc c'est aussi un jeu qui a son importance, je pense, dans l'historique des fans de la marque par rapport aux licences.
Bon, je t'ai tout de même à faire une confession avec les personnages, justement, c'est ton mec, t'en parles, Antix. C'est grâce à Melee que j'ai su que Zelda, c'était la fille.
Ah, la honte.
Mais qui crève. Mais tu es là.
Je rappelle que le No Shame Sunday est déjà passé.
J'avais 8 ans, putain, ça va, c'est excusable.
Non,
Mais en vrai, on découvre plein de personnages, et justement, ça donne envie de connaître leur jeu. Et derrière, bah, forcément, ça profite à Nintendo, parce qu'on a toujours envie d'aller acheter les nouvelles IP ou tout ce qu'on peut voir dedans. Mais par contre, par rapport à ce qu'on disait entre les versions comme Smash 4 et Melee, je trouve que Melee est peut-être plus compliqué à prendre en main pour les néophytes, et il donne moins envie, et peut-être... Enfin, je sais pas, je trouve que Smash 4 est peut-être plus abordable pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de jouer en général, alors que Melee a un côté un peu rebutant.
Maintenant, t'as des gens qui savent très bien jouer à Melee aussi, donc je pense que...
Oui, mais même avec des joueurs du même niveau, tu vois, même avec les mêmes personnes.
Je sais pas, parce que c'est... Je trouve qu'il a un côté un peu... Mais Smash, de manière générale, a un côté un peu
raid.
N'importe qui peut jouer. qui marche bien. Alors après, je sais pas si Melee est particulièrement plus raide. Moi, j'ai surtout l'impression qu'effectivement, quand il y a des gens qui me disent « Tiens, on se fait un Melee », en fait, c'est des mecs qui ont 800 heures dessus et qui me mettent de toute façon une fessée, quoi. Donc effectivement, c'est...
Melee, j'y joue encore 10 ans après. Hein. Enfin, maintenant, j'y joue plus, mais en 2002, je pense que ça m'arrivait d'aller chez des potes et on se faisait une petite partie. Hein. Et quand je dis une petite partie, ça durait une bonne heure et demie, mais...
Oui, mais voilà, puis t'avais plein de modes de challenge un peu débiles, je veux dire, le sac de frappe, par exemple, est quand même le...
Ouais, il y a pas mal de choses qui sont arrivées dans cet épisode. Le mode aventure, par exemple, où tu te retrouvais à... D'ailleurs, qui je trouve est la meilleure version du mode aventure, et je suis sûr qu'il l'ait jamais refait, où tu commençais le premier tableau, tu parcourais un niveau de Mario, vraiment comme dans le jeu, et après t'enchaînais contre le combat contre Mario. Deux stages plus loin, tu devais essayer de trouver la Triforce dans un château qui ressemblait plus ou moins à Zelda. Il y avait quelques idées vraiment très sympas dans ce mode aventure et je suis déçu qu'ils aient pas essayé de refaire quelque chose comme ça.
Bah t'as eu l'émissaire subspatial qui était en mode juste énorme. Enfin c'était vraiment super marrant, moi je trouve l'émissaire subspatial.
C'était chiant. Enfin je trouve que les ennemis justement on les connaissait pas. Il y avait un côté un peu mou à l'émissaire subspatial, pardon, moi, qu'on trouvait pas dans mes.
En fait j'aimais bien le côté jouer à Mario mais en jouant avec Samus quoi. C'est ça qui me faisait marrer, moi. C'est ça que je trouvais très très drôle. L'émission spatiale était sympa, hein. Il y avait un petit côté Kirby Super Nintendo.
C'est exactement ça. Moi, ça m'a énormément rappelé Kirby Superstar, enfin Kirby Fun Pack, je sais pas comment il s'appelle en Europe. Mais c'est ça ressemble à Kirby Superstar Ultra avec ce côté très arcade, un peu débile, mais qui marche, quoi. Dans lequel, finalement, c'est un jeu de combat, donc maintenant ton allié c'est. Lui! Et puis on s'en bat les couilles de toute façon, parce qu'en réalité, l'important c'est de débloquer la cinématique suivante, d'arriver au combat suivant et d'arriver à finir le jeu, quoi. Et je trouve que pour un mode aventure dans un jeu de combat qui doit durer, je sais pas, l'émissaire subspatial, ça dure peut-être une heure et demie.
Non, ça dure beaucoup plus.
Ça dure plus que ça?
Moi je pense que tu peux le mettre à 5-6 heures facile.
Putain, tant que ça,
entre les cutscenes, il y a pas mal de niveaux. D'ailleurs, ce qui était cool dans ce mode-là, c'était de voir des mecs de deux séries différentes qu'on se battre ensemble. Enfin, voir Mario et Link côte à côte, ça avait ce petit truc sympa, quoi.
Juste pour revenir du coup sur le personnage, il y a Pape qui nous dit que sans Mars et Roy dans Melee, il n'est pas sûr que Fire Emblem serait une licence encore vivante aujourd'hui.
C'est pas impossible.
Si, c'est possible, mais ce serait resté un truc de niche au Japon.
Ce serait resté un truc de niche au Japon, oui, voilà.
Ceci dit, faut pas oublier que le succès d'Advance Wars a aussi pas mal aidé Fire Emblem à sortir de son carcan, mais oui, avoir Marth et Roy dans Smash Bros, ça a permis de faire connaître la série avant qu'elle arrive.
Tout à fait.
D'ailleurs, pour l'anecdote, Roy était dans le jeu, dans Melee, avant la sortie de son épisode de Fire Emblem, pour faire de la promotion à cet épisode-là, au Japon.
Tiens, voilà, anecdote amusante. Pareil, on a eu Ness et Lucas, qui étaient des personnages aussi, en Europe, totalement inconnus. Forcément, puisqu'on n'a jamais eu ni Earthbound, ni Mother,
bah, je
ni
pense
rien.
Que pour la grosse majorité des Européens, la première fois qu'ils ont vu NES, c'était en le débloquant dans Smash 64.
C'est exactement ça. Et ça fait quand même un peu bizarre de voir des personnages, effectivement, qu'on connaît pas du tout, débarquer comme ça de nulle part. Toujours un peu étrange. Bah, Lucas, il y a Rosier qui me dit, il faut changer de jeu vite.
Ah oui.
Change de jeu vite.
Changeons de vie vite.
On va passer.
C'est les discrets, moi.
On va passer assez rapidement sur le jeu suivant. Nous avons retenu collégialement. Parce que je ne suis pas du tout un dictateur dans cette émission. Eternal Darkness, Sanity's Requiem, alors personnellement c'est un jeu qui m'a à la fois marqué et pas vraiment marqué, c'est un peu compliqué, parce que c'est un des rares jeux que j'ai fini quasiment d'une traite, c'est-à-dire que j'ai mis le jeu dans la machine à 13h, j'ai coupé la console, il devait être à peu près 1h30 du matin, et j'avais fini le jeu, voilà. Entre deux, j'ai quand même mangé, j'ai quand même fait 2-3 autres bricoles, mais je veux dire, c'est le jeu que j'ai fini quasiment d'une traite. Et c'est un jeu un peu bizarre parce que finalement, il a qu'un seul truc de génial, qui est la barre
de sanité.
La barre de sanité, alors, qui ne veut rien dire en français d'ailleurs.
La barre
de santé mentale.
Voilà, c'est la barre de folie.
La barre de folie. Et en fait, tout l'intérêt du jeu, c'est d'arriver à avoir les hallucinations les plus impressionnantes qui soient en faisant monter cette barre de folie. En réalité, si on enlève...
En la faisant baisser, plutôt.
En la faisant baisser, non, en la faisant monter pour avoir les hallucinations les plus ouf, quoi. Je veux dire, c'est ça qui fait tout le sel de ce jeu. Parce qu'en réalité, le jeu, il est pas si ouf que ça. Je veux dire, le gameplay est super rigide. Les visuels sont
pour le coup, c'est plus jouable que le premier Resident Evil. Hein,
C'est plus jouable que le premier Resident Evil, c'est beaucoup moins jouable que le remake. Ça se discute.
Non, par contre, c'est vrai que c'est très rigide. D'ailleurs, c'est le jeu où, à partir du moment où ton personnage avait une arme blanche, généralement c'était plus très dur.
Oui, voilà, mais t'as... ce jeu, il a énormément de défauts, en fait. Il est...
Ah non, il est loin d'être parfait.
Pas mais très maniable, il est pas moche, mais enfin, il est... C'est pas non plus un canon de beauté. Les décors se répètent énormément. Ça se voit que le jeu a commencé son développement sur N64 parce que finalement tu revisites les mêmes décors à différentes époques.
Pour expliquer le principe, tu joues les ancêtres de l'héroïne et tu te fais en fait toutes les époques de l'Antiquité romaine jusqu'à nos jours, quoi.
Alors tu joues. Alors c'est pas les ancêtres de l'héroïne, hein, c'est les possesseurs du livre des ténèbres. Puisque tu trouves le livre des ténèbres et en fait tu revis l'histoire des différents possesseurs du livre des ténèbres.
Enfin, tu revisites des lieux que tu as déjà vus et ça t'arrive parfois de trouver le cadavre de ton précédent personnage qui s'est fait tuer.
Te fait sachant qu'ils ont, je crois qu'ils ont à peu près tous, sauf, me semble-t-il, le pompier. Oui, j'ai aucune race et je spoil des jeux qui ont 15 ans. Il me semble que le pompier est le seul qui n'a pas une fin tragique d'ailleurs, parce que je crois que tous les autres finissent par mourir dans d'atroces souffrances en gros. Sauf l'héroïne, puisque l'objectif c'est
qu'elle gagne à la fin.
C'est qu'elle gagne à la fin quand même.
Et donc, on peut revenir sur cette petite folie parce qu'il y a quand même des trucs très très chouettes. Donc, tu as des trucs du style, c'est un petit peu penché. Ça, c'est des trucs mignons au début. Parce qu'en fait, les très trucs qui rendent fou, c'est pas forcément tes personnages qui le vivent, c'est toi en tant que joueur qui va les vivre.
Voilà, c'est briser le quatrième mur qui est intéressant.
Genre réduire le son de ta télé. C'est une espèce de rendu sépia. Débrancher ta manette lorsque tu rentres dans une pièce et que des zombies se dirigent vers toi pour te bouffer.
Oui, et alors le meilleur que... Il y en a eu deux très très bonnes que j'ai eues, c'est la télé change de chaîne.
En plein combat.
En plein combat. Et le truc change de chaîne. Et là où moi ça m'a sorti un peu du truc, c'est que le machin s'affiche en vert en fait, tu vois, parce que c'était fait pour les vieilles télé CRT en fait. Donc,
ouais, surtout il l'avait fait pour des télé américaines et elles sont un petit peu différentes en France.
Voilà, et donc t'as le truc, tu te dis, ah oui, non, mais ça c'est pas ma télé, ça doit être autre chose.
C'est encore le jeu qui se fout de ma gueule.
C'est encore le jeu qui se fout de ma gueule. Et moi j'ai eu un très très drôle aussi, sauvegarde corrompue.
Oui, ça c'est. Celle-là tout le monde l'a eu, c'est la pire.
Ouais, c'est connu ça.
Celle-là quand tu l'as, voilà. Même quand tu le sais, hein, t'es. Oh, putain, bordel de merde.
Et surtout que tu vas dans le menu pour sauvegarder, le truc te dit sauvegarde corrompue, mais tout est facile, tu fais qu'est-ce qui se passe. Et là il fait, this is an happening et tout, et t'as l'espèce de flashback qui fait que tu reviens dans le truc et tu te dis, bon ok, je sauvegarde plus pendant au moins une petite demi-heure là.
Et ouais, non, c'est un jeu qui est très chouette pour cette partie justement, folie qui est très. Enfin, le jeu est très inspiré de Lovecraft et de Cthulhu notamment. Notamment pour le monstre à tentacules qui sert de grand méchant.
Et donc
crois.
De tous les hentai, hein, je veux dire.
Exactement, voilà. Donc finalement, c'est un jeu développé par des Américains, édité par des Japonais, tout va bien. Il y a des tentacules.
Mais voilà, c'est pas un... Je pense que c'est un jeu qui peut encore marquer les gens qui ne connaissent pas du tout. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est...
D'oublier ce que vous venez d'entendre et d'y jouer.
Non mais allez-y, parce que de toute façon, on vous a pas décrit... Enfin, on vous a décrit quelques-unes des expériences douloureuses qu'on peut faire dans ce jeu avec les hallucinations, mais il y en a des bien pires que ça, il y en a des bien plus drôles. Il y en a qui sont... vraiment, vraiment flippante. Je crois que c'est une des rares fois de ma vie où j'ai sursauté devant un jeu vidéo. Je dirais pas pourquoi, parce que j'ai pas envie de le spoiler, je le dirai peut-être un petit peu après. Mais il y a un des passages où, effectivement, le truc était là, genre, putain, c'est quoi ce truc? Et tu sursautes vraiment, enfin, moi, j'ai vraiment fait un bond de 2 mètres de ma chaise, parce que j'étais là, genre, mais c'est quoi cette merde?
Il y a quand même des passages sympas, notamment où tu te retrouves dans une église française pendant la Première Guerre mondiale, en plein bombardement. Du coup, t'essaies de trouver ton chemin pendant les explosions ou les cris dehors, c'était assez sympa.
T'avais quand même une sacrée ambiance, et puis en plus, ta barre de sanité, alors effectivement, elle provoque des hallucinations directes, mais elle provoque aussi des hallucinations indirectes, c'est-à-dire que la musique commence à être plus lente, plus rapide, tu commences à entendre des pleurs d'enfants, des cris, et puis des cris pas forcément très agréables, hein, tu vois, des cris un peu... Tu commences à entendre des bruits de clapotis, tu commences à entendre des tentacules, tu commences à entendre des murmurements, tu commences à... Des murmures, d'ailleurs, c'est mieux. Tu commences à entendre des bruits de... Donc de hentai, hein, je veux dire, clairement.
Ah, c'est bon, il y a le prêtre qui est en train de sucer un enfant à l'arrière, il y a pas de problème.
C'est un peu ça.
Là, ça va, j'accepte.
Et en fait, le jeu est en 5.1, et si vous avez la chance d'y jouer en 5.1, vous allez voir que tous ces bruits-là sont spatialisés, et que c'est très 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 compliqué. Hein. Quand vous avez vraiment un bon système son, moi j'ai eu la chance d'y jouer au moment où j'avais acheté un kit d'enceinte super badass, tout ça. On a bien bien mal au cul, hein. C'est le travail sur le mixage sonore est assez exceptionnel. Donc voilà, le seul conseil que je peux vous donner, donc lors de la toute première quête, vous devez choisir une rune, il y en a trois, il y a la bleue, la rouge et la verte. Et en fait, chacune des trois runes représente les trois jauges que vous allez gérer dans le jeu. La rouge, c'est la santé, la bleue, c'est la magie, en gros, et la verte, c'est donc la santé mentale.
Sachant que ça représente aussi un petit peu la difficulté, du coup.
Oui, exactement, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on chope la rune rouge, on est tout le temps à court de vie. Quand on chope la rune bleue, ta gueule le chat, on est toujours à court de magie. Et quand on chope la rune verte, on est systématiquement à court de santé mentale. Donc je vous conseille très fortement de jouer avec la rune verte, parce que c'est quand même là où le jeu est plus fun.
C'est pas qu'on est toujours à court, c'est surtout que les ennemis attaquent dans cette barre.
Voilà,
en plus de la barre de vie. Donc les ennemis rouges tapent deux fois plus fort.
Donc c'est, voilà, c'est le niveau de difficulté max. Alors au début, on vous le dit pas du tout. Moi, je vous conseille vraiment de commencer à jouer avec la verte. La bleue a assez peu d'intérêt en réalité. La rouge, c'est si vous vraiment voulez du challenge. Comme on a passé beaucoup trop de temps là-dessus, je vous propose de passer au jeu suivant qui est F0GX. Alors Zergy, je crois qu'F0GX faisait partie de ta sélection aussi.
You've got boost power.
Oui, parfaitement. Un des très très bons jeux GameCube. Moi, j'ai connu F-Zero sur Super NES. Moi, j'y avais un petit peu joué. J'ai complètement zappé la version N64. Et en fait, c'est un pote qui m'a fait tester la version GameCube et j'ai complètement accroché. C'est bizarrement, je suis pas très jeu de course. Mais là, on est devant du bon jeu de course arcade et personnellement, j'arrive à y passer plusieurs heures dessus.
En plus, avec un niveau de difficulté vraiment arcade, alors, pour le coup.
J'allais en parler, oui, effectivement, un niveau de difficulté qui est plutôt assez élevé, mais pas punitif. En fait, au niveau des Grands Prix, on arrive toujours à s'en sortir en insistant un peu. Sachant que le Grand Prix AX est plutôt facile finalement.
Le Grand Prix AX, c'est le Grand Prix que tu débloques une fois que tu as fini tous les autres Grands Prix dans le mode de difficulté maximum.
Oui, donc globalement, à partir du moment où tu l'as eu, le Grand Prix, c'est plus facile, c'est que t'es bon.
Bah oui, t'as de l'expérience, quoi.
Mais après, t'as aussi plein d'astuces pour arriver à t'en sortir.
Ouais, c'est possible. Mais en fait, la grosse difficulté, c'est le mode histoire. Là, faut vraiment s'accrocher à son slip.
Bah surtout en mode difficile, parce qu'en fait, le mode histoire en mode normal est déjà bien costaud, on va dire.
Il est déjà bien raide, ouais.
Et en mode hard, c'est je veux dire, c'est... Je pense que c'est même pas à la seconde près, c'est à la demi-seconde près qu'il faut finir les parcours. Et c'est d'une difficulté qui est dantesque. Autant les Grands Prix, en fait, il y a des astuces toutes bêtes pour s'en sortir. Moi, dans les niveaux de difficulté les plus élevés, ce que je faisais systématiquement dans les Grands Prix, quand je voyais que j'étais un peu à la ramasse, c'est qu'il y a t'as un indicateur qui te dit rival au-dessus du mec qui en fait est juste derrière toi au classement. Ou juste devant toi au classement.
Tu te mets juste devant lui et il te pousse.
Bah tu le défonces en fait. Tu défonces systématiquement le mec qui est écrit rival.
Voilà, tu peux faire le ménage.
Tu fais le ménage et pareil, si t'arrives à éliminer 5 personnes dans la course, tu gagnes une vie supplémentaire. Parce qu'il faut voir aussi que quand t'es dans le niveau de. En fait, quand tu démarres en niveau débutant, je crois que t'as 7 vies au total, donc t'as en gros 7 continues. Si tu perds la course ou tu tombes, tu perds un continu, enfin tu perds une vie. Et donc tu peux recommencer ta course, enfin les 5 ou 6 courses qui composent un tournoi, tu peux les recommencer à peu près 7 fois. Quand t'es dans le niveau de difficulté maximum, t'as plus que 3 vies, je crois, dans le dernier niveau de difficulté, ou 2 vies.
Ouais, t'en as pas beaucoup.
T'en as vraiment pas beaucoup, et en fait tu peux en regagner en éliminant pas mal de monde. Donc sur les courses un peu faciles, ça vaut le coup d'aller jouer des coudes pour aller éliminer... À chaque fois que tu élimines 5 personnes, tu gagnes une vie.
Ouais, c'est assez facile d'en tuer un ou deux dès le début de la course. Enfin, généralement, exactement. Le mec qui est juste devant toi, tu peux le dégager direct.
Ou juste devant toi, ou juste derrière toi, t'arrives à les dégager direct, donc c'est quand même pratique. Et moi, je me rappelle que y a une des courses, quand j'ai fini en mode expert, je crois que c'est le mode difficulté maximum, la dernière coupe, en fait, il y a une des courses où j'avais éliminé 25 mecs. Parce que j'étais là en mode, bon, j'en ai plus rien à foutre, maintenant c'est le carnage, donc j'ai gagné 5 vies, et du coup, c'était finger in the nose derrière. Et en plus, tu peux recommencer indéfiniment, c'est-à-dire que si tu élimines 5 mecs, que tu perds une vie sur la course, tu recommences la course, t'as perdu une vie, mais comme t'en as gagné une précédemment, enfin tu peux jouer quasiment à l'infini si tu commences à savoir maîtriser un peu cette histoire-là. Je sais que c'est un jeu aussi qui plaisait beaucoup à Sierra, alors spécial case d'Eddie Sierra qui peut pas être là ce soir, parce que malheureusement, il se remet d'une longue maladie.
Plus de s'occuper de ses enfants.
Plus de s'occuper de ses gamins, parce que voilà, c'est un père de famille responsable, ce qui est quand même totalement lamentable. Qui était un passionné de ce jeu, et moi c'est grâce à lui que j'ai découvert la licence F-Zero, je connaissais pas du tout avant. J'avais pas joué F-Zero X sur N64, j'avais pas joué F-Zero sur Super NES, je connaissais vraiment pas du tout. Et en fait c'est lui qui m'a donné envie d'y jouer. Et moi au départ j'aimais vraiment bien Wipeout, c'est une partie des jeux que j'aimais bien. Et en fait, il m'a collé le virus F-Zero, et c'est vrai qu'une fois que t'as joué F-Zero GX, c'est compliqué d'aller retourner sur d'autres jeux de course futuriste, parce que les contrôles sont juste parfaits, les pistes en elles-mêmes sont juste super originales, super bien foutues.
Il y a une super ambiance, enfin, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même un jeu qui claque, enfin... Le jeu est super fluide et c'est super beau. Enfin, les décors sont vraiment en mode plein la gueule. Enfin, c'est du futuriste très bling-bling, très brillant, mais ça rend super bien en fait en jeu.
Ouais, ça en jette bien. Le jeu est à... Alors, malheureusement, en Europe, on l'a eu en 30 images secondes parce que c'était de l'entrelacé, mais aux États-Unis, il tourne en 60 images secondes. Il n'y a pas un pet de ralentissement.
Quand même vite.
Qui vont quand même vite, oui.
C'est des 30,
images rapides par seconde.
En fait, y a, Miyamoto a dit que ça servait à rien de faire un nouveau F-Zero si ils n'avaient pas de nouvelles idées, mais en fait, ils auraient juste à ressortir un F-Zero GX HD Remaster avec mode en ligne à 30, et c'est bon, hein, je pense que les gens seraient super contents.
Mais je pense que. Alors, je sais pas, en fait, je sais pas à quel point le jeu s'est bien vendu ou pas, c'est compliqué à dire.
Ah, c'est très mal vendu. Ouais, ça, on a une tendance à oublier, c'est que F-Zero, ça se vend pas. Enfin, F-Zero GX, c'est pas si bien vendu que ça. Que la collaboration avec Sega, c'est pas si bien passé.
C'est-à-dire que le jeu est exceptionnel, mais la collaboration s'est mal passée.
De ce que j'ai compris, il y a eu quand même pas mal de différends entre Nintendo et Amusement Vision qui a fait le jeu et qui maintenant s'occupe surtout des Yakuza. Donc autant dire que Yakuza marche très très bien pour Sega, donc ils n'ont pas intérêt à refaire un F-Zero avec Nintendo si ça galère.
Non, il n'y a plus personne chez Sega aussi, ils sont tous barrés. Ils sont tous des Sonic de merde.
Ah non, ils font des Yakuza. Yakuza, ça marche super bien et c'est très apprécié.
Ouais, bon, bref. Donc on aimerait bien un jour revoir F-Zero, mais c'est vrai que s'il n'y a rien de nouveau...
On espère que ceux qui font les fast racing pourraient être approchés, mais de ce que j'ai cru comprendre, les fast machins, enfin la série des fast racing, il manque encore un petit peu la folie qu'on pouvait avoir dans F-Zero avec des niveaux où c'est juste un U de skateboard, quoi.
Mais
meilleur niveau de GX, hein. C'est mon préféré.
Je sais pas si c'est le meilleur. Il est assez infernal, ça je confirme. Moi j'aime beaucoup le cylindre, en fait. Cylinder Note, qui est juste. C'est juste infernal comme niveau, et je le trouve super bien. Surtout le moment, tu sais, où t'as plein de vaguelettes sur la route pour te faire sortir de piste. Faut prévoir le sac à vomi. Alors voilà, mon conseil personnel pour jouer à F-Zero GX, hein, parce que je l'ai vécu, ne jouez jamais à F-Zero GX après avoir mangé une tartiflette. C'est vraiment. Voilà, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Elle passe très très mal, la tartiflette, après F-Zero GX. Hein. Très 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 mal. On va passer au jeu suivant. C'était une suggestion de Monsieur Zergis. Un jeu que personnellement j'ai acheté il y a quelques mois, que j'ai réussi à trouver en super bêta, à un prix absolument dérisoire.
Star Fox Adventure.
Non, Skies of Arcadia Legends.
Qui est très dur à trouver, hein, à prix correct.
Qui est un des jeux les plus difficiles à trouver. Alors en fait... J'ai peut-être une explication sur le fait qu'il soit difficile à trouver.
Je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup d'exemplaires de tirés sur GameCube.
Oui, c'est sûrement ça.
Alors, il n'y en a pas eu beaucoup d'exemplaires de tirés.
Les
surtout,
prix sont honteux, hein. C'est 90 balles.
C'est 90 balles, les prix sont honteux, mais surtout, la version que j'ai est une version FRG, c'est-à-dire français et allemand. C'est en général les versions qui sont distribuées en Allemagne et en Suisse francophone. Donc, je ne sais pas si le jeu est sorti en France, en fait. J'ai de plus en plus de doutes.
Les doublages sont en Suisse.
Il n'y a pas de doublage, je crois pas. Donc, monsieur Zergi, je vous en prie, vous avez la main.
Alors, celui-ci, je me suis permis de le mettre parce que c'est un des rares JRPG que j'aime bien. Alors, c'est pas une exclu GameCube, il est sorti sur Dreamcast auparavant. Mais la version GameCube, c'est la supérieure version, puisqu'on a tous les ajouts, enfin, tous les DLC. De la version Dreamcast qui sont inclus dedans, et il y a des bugs qui ont été corrigés. Et finalement, autant j'aime pas Final Fantasy et pas mal d'autres jeux de rôle, autant celui-ci, je kiffe bien. L'histoire, bon, elle est assez classique, mais il y a des pirates, il y a des batailles de bateaux, c'est cool, et on arrive à s'attacher au personnage.
En dehors de ça, parce qu'il y a deux types de batailles, il y a les batailles de bateaux, donc moi j'aime bien les bateaux et les pirates, donc c'est vrai qu'un jour il faudrait que je m'y mette, surtout les pirates déserts, il y a un côté très sympa dans le design en lui-même, et dans le monde et dans l'univers en lui-même, qui est très cartoon, mais très, très bon enfant. Je sais pas ce que vaut l'histoire derrière, parce que j'ai pas fait le jeu encore, mais ça a l'air vraiment sympa. Il n'y a pas aussi des batailles sur Terre qui sont genre beaucoup plus classiques?
En fait, tu as des batailles aléatoires comme dans tous les RPG, on va dire, de l'époque. Tu as les batailles navales et... sinon après c'est les batailles contre les boss, quoi. C'est soit des batailles aléatoires sur Terre, soit les batailles navales, qui elles ne sont pas aléatoires.
Donc tu peux choisir d'aller friter les bateaux que tu veux
par tour. Ouais, c'est ça.
Même les bateaux, c'est du tour par tour?
Ouais.
D'accord, ça je savais pas. Voilà, donc Skies of Arcadia Legends, je sais pas si on peut dire grand chose de plus, surtout que, ben, comme on a dit, c'est pas un jeu très commun, donc c'est vrai qu'il y a assez peu de gens qui le connaissent.
Il y a JBC qui le connaît et qui dit qu'il est bien sorti en France, vu que lui-même l'a acheté quasiment Day One au Micromania du coin de sa rue.
D'accord, bah, c'est une bonne chose à savoir, mais ça veut dire que Sega a totalement merdé sa distribution.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude, donc je peux vous garantir que le jeu, à moins qu'il y ait une version FRA qui existe, ou une version FAH qui existe, le jeu est sorti.
Je crois que c'est en version FR, moi, normalement.
Alors, faut que tu vérifies, ça doit être une FRG, il est sorti en France, en Allemagne, en Suisse, sûr. J'ai pas vu d'autres jeux, c'est un des rares jeux GameCube où j'ai vu cette notation. La plupart des jeux, alors pour les gens qui connaissent pas, les Nintendo a des zones en fait en Europe différentes, c'est les petits triangles de couleurs que vous voyez en bas des jeux Wii U, Wii et GameCube, ça représente ces zones de couleurs, et donc FRG c'est la zone qui correspond à Suisse francophone, Suisse germanophone, Allemagne et France. Donc c'est une zone de distribution assez bizarre et pas du tout commune pour Nintendo.
Le triangle est mauve et effectivement derrière c'est allemand et français. Donc voilà. C'est peut-être une version aussi distribuée en Suisse.
C'est probablement une version qui devait être distribuée. Alors au moins en Allemagne et en France, ça c'est sûr, probablement en Suisse. Voilà. Mais par contre, si JBC se souvient de l'avoir acheté au coin de la rue, je le crois, y a pas de souci. Donc peut-être que c'est sorti en France, mais c'est vrai que ça a été... Ça fait partie des jeux très difficiles à trouver, toutes régions confondues d'ailleurs, c'est pas seulement la version PAL, la version américaine est très rare aussi.
Ça va, je m'en sors bien pour 30€.
Ça va, tu t'en sors plutôt très bien.
Pareil, pour mon câble YUF que j'ai eu qu'à 70 balles.
Bon, il est pas mal. On va enchaîner avec une autre duologie qui est sorti sur GameCube, qui est ressorti plus tard sur Wii, donc il n'est plus vraiment une exclusivité du coup, c'est Metroid Prime 1 et 2.
Très bon.
Excellent. Enfin, Metroid Prime, ça a été la grosse claque.
Respectivement excellent et bon.
Alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Je pense que Metroid Prime nous a mis une énorme claque dans la gueule. Je pense que Metroid Prime 2 était un jeu beaucoup trop difficile.
Ouais, surtout, il était plombé par ce système de monde lumière, monde obscur, donc qui marche dans Zelda. Hein. C'est pas un souci, mais le monde obscur, tu perdais de la vie en permanence quand t'étais dedans. Sauf à la fin du jeu, quand t'avais l'upgrade ultime.
Jusqu'à ce que tu trouves le costume qui te permette de réduire un petit peu les dégâts, et en fait, tu le trouves assez vite au final. Donc,
tu l'as assez vite dans le jeu.
Au début, t'as souvent des zones pour t'abriter, en fait, où tu regagnes tes vies lentement, donc finalement.
C'est juste chiant parce qu'il faut attendre, quoi. Enfin, ça casse un peu le rythme du jeu.
Ça casse le rythme d'exploration des Metroid. Enfin, Metroid, ça reste un jeu où tu vas quand même beaucoup fouiller, faire des allers-retours. Alors, si en plus, pour trouver ton chemin, donc si en plus tu es limité dans ta progression par le fait que ta barre de vie descend toute seule, c'est un peu ennuyeux et ça avait rendu quelques boss, notamment le boss boule turbo et le boss boule araignée, particulièrement compliqué parce qu'en plus de devoir affronter le boss en lui-même, tu perdais de la vie en permanence vu que tu n'avais aucune zone pour récupérer.
Ouais, c'est... Enfin, oui et non, parce que tu pouvais quand même te démerder, tu avais quand même des astuces.
Ouais,
moi, je trouve que Metroid Prime 2, en fait, ce qui se passe, c'est que la courbe de difficulté par rapport au 1 est juste totalement déconnante. Dans le 1, tu avais vraiment une difficulté très progressive.
T'avais quelques zones qui étaient un petit peu compliquées, enfin t'avais des pics de difficulté sur certaines zones.
Notamment le Metroid Omega dans Fendrana, enfin t'as quelques périodes, t'as quelques passages en fait qui sont un peu typiques des Metroid dans lesquels finalement tu rencontres un énorme boss et t'es là « Putain comment je fais ?» et tu vides absolument toutes tes munitions dessus.
C'était plus des passages où en fait t'es entre deux points de sauvegarde et soit tu dois faire un aller-retour et le retour forcément bah t'as plus d'ennemis. Soit c'est notamment le premier passage dans les mines de Fanzon où tu dois aller récupérer la bombe de puissance. Et tant que t'as pas récupéré la bombe de puissance qui t'oblige à faire quasiment deux étages complets remplis de pirates qui veulent tous ta mort.
Ouais, c'est un peu raide.
C'était un petit peu raide. Quand je l'ai fait la première fois, j'ai fait bon, allez, je sors, je vais essayer de trouver des réserves d'énergie, sinon je passerai jamais. Et je suis passé la limite où je crois que le boss, ou le passage qui suivait le boss, qui était une espèce de labyrinthe, j'étais extrêmement prudent parce que je voulais pas me retaper les deux étages.
Ouais, non, mais c'est ça, il y avait quelques pics de difficulté, mais finalement ça se passait assez bien et c'était assez progressif. Le problème dans Metroid Prime 2, en fait, c'est surtout que le jeu te met. Enfin, tu allumes la console, en fait, enfin, tu mets le disque dedans, tu allumes la console, tu prends la manette, tu t'assois dans ton canapé. Là, le jeu sort de la télé, te met une paire de claques et retourne dans la télé directement.
En vrai, ça arrive pas trop sur la première zone du jeu qui est le désert, je sais plus quoi. Et après, en fait, c'est vraiment dans le marais. Où il commence à, comme il t'enfile la combinaison qui réduit les dégâts que tu prends dans la zone sombre, et ben il y a beaucoup moins de zones pour soigner. Les boss deviennent plus durs, c'est là où tu rencontres le boss Bull Turbo par exemple, dont j'ai parlé, et qui à mon avis j'ai mis 2 jours à le tuer je crois celui-là, tellement j'avais du mal. Et du coup ça rend le jeu un peu frustrant et moins agréable, et de manière générale d'ailleurs je trouve qu'il était un petit peu moins inspiré que le premier Metroid Prime en termes d'environnement aussi.
Sauf pour un environnement.
La forteresse.
Exactement.
Qui elle par contre c'est... qui est un truc assez... une forteresse de SF assez incroyable avec des circuits dans tous les sens, de la lumière de partout, sur plusieurs étages.
Des monstres qui l'habitent qui étaient juste effectivement des robots ou des machins d'énergie. Il y a le truc qui faisait rebooter ta combinaison.
Pour le coup, le boss de la fin de la zone est absolument mythique. Enfin, c'est une espèce de robot que tu dois affronter, un boss marathon. Donc lui, tu l'affrontes en perdant ta vie en permanence parce qu'il n'y a pas de zone de soin, ce qui le rend très dur. Mais du coup, c'était un des combats dont je me souviens le plus dans le 2. Je trouve que c'était le plus réussi globalement.
Et à la toute fin du jeu, dans Metroid Prime 2, tu acquiers la boule, non, la spin attack, le fameux. La screw attack, pardon.
La screw attack qui n'était pas dans le premier.
Qui n'était pas dans le premier, qui était prévu à l'origine, c'est pareil, mais qui n'était pas dans le premier. Et à ce moment-là, tu te balades littéralement dans le jeu en défonçant absolument tout le monde parce que tu es quasiment invulnérable.
Bon, déjà,
et ça, c'est jouissif.
Déjà, à la fin du 1, je trouvais que la montée en puissance était déjà plus palpable que dans le 2, parce que tu n'étais pas limité dans tes armes au niveau des munitions dans le premier. Et quand tu avais le plasma beam, enfin le rayon plasma qui faisait très très mal, tu voyais les mecs fondre devant toi après quelques tirs, c'était vraiment génial quoi.
Le seul défaut que j'aurais à donner à ces deux jeux finalement, c'est que dans Metroid Prime, comme dans Metroid Prime 2, alors c'est moins marqué dans Metroid Prime 2, tu as le fameux « Ah, pour finir le jeu, il faut que tu ailles retourner partout pour trouver les artefacts maintenant. »
Oui, c'est un truc qu'ils feront dans les 3 d'ailleurs.
Ce qu'ils feront dans le 3, mais beaucoup moins marqué aussi, parce qu'en fait tu peux arriver à les trouver plus ou moins au fur et à mesure. Dans le 2 c'est pareil. Dans le 1, moi j'étais là genre « Vous êtes sérieux, faut que je reparcours tout le jeu ?» Et heureusement, une fois que tu connais à peu près bien le jeu, les indications qu'on te donne sont... Enfin, je veux dire, ça va, quoi, tu vas arriver à les retrouver. Mais ça reste quand même un peu lourd comme mécanique, je trouve, et c'est vraiment... S'il y a vraiment un seul truc que je dois reprocher à ce jeu-là, c'est ça. Et autant, je trouve que dans le 2, le fait qu'on te file la screw attack en dernier, ça te permet vraiment d'aller défoncer tout ce qui reste, le peu de trucs qui restent dans le jeu, tu vas vraiment aller le défoncer totalement. Et passer à l'esblaise, et finalement le deuxième reparcours du jeu, enfin le deuxième tour que t'es obligé de faire de piste pour aller récupérer toutes les merdes, ça va très vite. Je sais pas, en une heure t'as fait le tour, je dirais peut-être 2 heures t'as fait le tour. Autant sur Metroid Prime 1, ça prenait quand même vachement de temps.
Parce que c'était vraiment des petits indices, et c'était pas toujours évident à trouver dans le premier.
Exactement.
Ouais, ceci dit, on parle du 1 un petit peu en mal, mais c'est quand même un jeu... Qui était assez incroyable, enfin qui était très inspiré en termes d'univers, extrêmement fouillé aussi, puisqu'il y avait toute une série de logs à scanner, des créatures à scanner pour obtenir des infos sur le jeu. En fait, quasiment toute la narration se faisait dans l'encyclopédie du jeu finalement. Et tu pouvais comprendre tous les tenants et les aboutissants, et puis t'avais vraiment une structure du monde qui est vraiment mémorable. Enfin, je me souviens à peu près de toutes les zones, notamment les monts de Fandrana, la première fois où tu y arrives. Où tu as toute cette verticalité, toute cette neige, et la musique est absolument formidable. Et
c'est d'ailleurs la musique que nous avons en fond actuellement.
Très bien.
Tu es parti.
Écoutons-la.
Metroid Prime a des musiques d'ambiance absolument extraordinaires, donc c'est vrai qu'elles servent de bête, de fond musical.
En termes d'ambiance, le premier Metroid Prime est vraiment une référence. Et tu avais plein de petits détails, notamment tout le HUD du jeu qui en fait était dans le casque de Samus. Et parfois, quand tu te prenais des attaques électriques, et ben, le HUD se brouillait, puisque c'était le casque qui était directement affecté, par exemple.
Oui, et puis t'avais le reflet de Samus dans le casque quand tu passais devant une lumière ou quelque chose comme ça.
Voilà, et c'était le premier jeu de Retro Studio pour Nintendo, qui montre quand même une certaine excellence de la part du studio qui sait aligner les bons jeux en tout cas.
Et à partir de là, on n'a plus jamais regretté Rare.
Bon, si on faisait le bilan de tous les jeux qu'a fait Rare chez Nintendo, on se rendrait compte que c'était pas si bien.
Ben un jour, mais on n'avait pas déjà fait une émission spéciale Rare, il me semble
qu'il y en
que...
a une.
C'est il y a 3 ans.
C'était il y a longtemps, faut peut-être qu'on en refasse une. Non, on n'aura pas grand-chose de plus à dire. Je vais zapper volontairement un ou deux jeux de la liste qu'on avait mis parce qu'ils commencent à se faire drôlement tard.
Oui.
On les demandera juste à la fin sur la liste.
On va aller zapper. Donc on avait sur la liste Super Mario Sunshine.
Alors qui est quand même pas si bien que ça.
Qui reste quand même très bien.
J'aimerais quand même revoir un jeu de plateforme adapté pour le jet. Parce que c'était quand même très fun, ça.
C'était très très fun, et effectivement, il avait des défauts. Il était notamment, à mon avis, beaucoup trop difficile. Il y a certains trucs qui étaient limite impossibles à faire.
Bah, surtout les niveaux sans jet, en fait.
Les niveaux sans jet, c'était quand même les niveaux qui ont servi de prototype pour Mario Galaxy derrière. Donc je suis pas d'accord, c'était juste énorme. Ouais, et mais... personnellement, si tout le jeu avait été juste ça, des niveaux sans jet, j'aurais juste été au paradis, parce que c'était difficile, mais c'était vraiment jouissif. Et Super Mario Galaxy a repris ça à merveille. Voilà. On avait aussi sélectionné Super Monkey Ball 1 et 2.
Alors c'est de la balle.
C'est de la balle. Des petits jeux d'arcade qui payent pas de mine, mais qui envoient vraiment du pâté avec un côté très compétitif, très difficile.
Un jeu et Sega, qu'on a tendance à oublier, qui était les premiers jeux Sega sur console Nintendo, le Super Monkey Ball.
Et qui était disponible à la sortie du jeu, Super Monkey Ball. Sonic à la sortie 2. De la console, pardon.
Avec Sonic Adventure 2.
Alors en Europe, avec Sonic Adventure 2, mais au Japon, il y avait trois jeux à la sortie au Japon. Il y avait Wave-Rest Blue Storm, Luigi's Mansion et Super Monkey Ball. Donc on se plaint aujourd'hui des lancements où il n'y a que deux ou trois jeux, mais il faut voir qu'à l'époque, il n'y avait pas mieux que ça. Hein.
Ouais, t'avais trois jeux et t'étais pas sûr que les trois étaient bien.
En plus, oui. Mais enfin là, en l'occurrence, ça va. Luigi's Mansion, c'est très correct.
C'était des bons jeux.
C'était des jeux très honnêtes. Il faut savoir que Super Monkey Ball, c'est le moteur de jeu qui a servi pour F-Zero GX derrière.
C'était aussi Amusement Vision.
Et aujourd'hui, les runners de F-Zero GX se servent en fait... de tout ce qu'on a appris sur le moteur de Super Monkey Ball, et notamment de sa gestion de la gravité qui est très particulière, pour arriver à battre des records. C'est quand même intéressant. L'objectif en fait dans F-Zero GX pour battre des records, c'est comme dans Super Monkey Ball, c'est d'être en permanence en chute libre, parce qu'en fait en chute libre t'as une vitesse qui peut atteindre l'infini. C'est juste un peu la folie, il n'y a pas de cap de vitesse, et donc c'est un peu n'importe quoi. Nous avions aussi dans notre sélection, je suis désolé, on passe un peu vite, on va passer un petit peu plus lentement sur les deux derniers jeux, mais celui-là on passe un peu vite dessus, il y a Beyond Good and Evil, qui était une requête de Cyrard, qui est un jeu qui l'a énormément marqué.
Un jeu français, messieurs,
de Michel Ancel. Un jeu Ubisoft, avant qu'Ubisoft ne fasse des jeux Ubisoft à la
Assassin's Creed. Avec des tours.
C'est ça. Avec des tours, un très très bon Zelda-like, donc, fait par des Français, donc avec une ambiance très très différente, dans une espèce de planète, un futur dystopique, enfin une planète totalitaire, où tu joues une héroïne, qui est photographe de surcroît, qui enquête notamment sur des kidnappings d'enfants sur la planète avec son pote le cochon. Voilà, pour donner à peu près une idée, c'est très très chouette. J'ai joué sur la version PS3, il y avait quelques soucis de caméra dans certains donjons qui le rendaient assez compliqué à finir, mais il y a une très chouette ambiance, des excellentes musiques, et je conseille aux gens qui ont un PC ou une console de salon de la génération précédente d'y jouer.
Voilà, on spécial case dédié Cyrard, c'est vraiment des jeux qui l'a marqué, qui malheureusement est peut-être pas sorti au bon moment.
Ah, qui s'est complètement raté, en fait ils l'ont sorti en même temps que Prince of Persia, et Prince of Persia c'est mieux vendu.
Parce que Prince of Persia, je sais pas si c'est un meilleur jeu, mais c'est vrai que c'est un excellent jeu, et c'est surtout le premier.
Je pense que Prince of Persia, de par ses mécaniques et le fait que ce soit un personnage masculin, que ce soit un personnage principal, à l'époque ça a dû aider à mieux se vendre.
Alors je précise quand même que la version GameCube a un énorme défaut, c'est que le jeu est en permanence en 16/9 pour une raison que j'ignore. Alors je sais pas si c'est moi qui ai pas trouvé l'option ou je sais pas quoi, mais en fait il y a deux énormes bandes noires sur le jeu tout le temps. Si quelqu'un a une idée, une astuce ou sait quelque chose sur le sujet, moi ça m'intéresse parce que j'ai essayé d'y rejouer et en fait... c'est juste atroce parce qu'effectivement on a le jeu est en faux 16/9 parce que c'est pas du vrai 16/9. C'est vraiment du 4 tiers avec deux grosses bandes noires en haut et en bas, donc je sais pas si c'est parce que c'est la version 50 Hz ou parce qu'il y a autre chose, mais c'est quand même un peu agaçant. Voilà, si quelqu'un le sait, ça m'intéresse. On enchaîne avec les deux derniers jeux sur lesquels on va rester un tout petit peu plus longtemps, puis après on va peut-être se quitter parce que quand même ça fait long. Pikmin 1 et 2. Alors moi c'est des jeux qui m'ont énormément marqué Pikmin. Ça fait partie des nouvelles franchises qu'avait lancé Nintendo avec la GameCube. C'est la première fois qu'on voyait un Pikmin. C'est une histoire qui est très marquante, une narration qui ne se fait qu'à travers le journal du capitaine Olimar et qui effectivement il fait part de tous ses doutes du fait d'aller exploiter ces pauvres petites créatures que sont les Pikmin, mais en même temps il les sauve un petit peu, il les aide à se débrouiller dans leur environnement, il les guide. Donc voilà, il y a cet aspect histoire qui est très intéressant, et il y a ce gameplay, c'est-à-dire Nintendo qui arrive et qui dit « Non, un jeu de stratégie sur console, pas dur, moi je te le fais, les doigts dans le nez. » Et ça marche. Le jeu fonctionne parfaitement. Je sais pas, le premier était peut-être un peu limité dans le sens où effectivement t'avais 30 jours, donc 30 missions en fait, tu pouvais faire à peu près n'importe quel niveau, dans n'importe quel ordre, enfin tu débloquais très rapidement tous les niveaux du jeu. Et fallait y revenir régulièrement pour pouvoir atterrir à d'autres endroits, pour pouvoir aller chercher d'autres pièces, parce que tu pouvais vraiment pas tout ramasser d'un coup. Donc cette limite de temps, c'est ce qu'on lui a principalement reproché au moment de sa sortie. Moi je trouvais que ça rajoutait un peu de stress, et justement ça rajoutait un peu un enjeu. Parce que le mec a 30 jours en fait, après il a plus de... Alors il respire pas de l'oxygène, en fait l'oxygène c'est un poison pour le capitaine Olimar.
C'est ça qui me faisait qui m'embêtait vraiment en jeu, c'était la limite de jours. Et en fait du coup ça me bloquait, parce que dès que j'ai l'impression de pas aller assez vite dans une journée, donc on était obligé de recommencer. Et finalement le jeu, j'ai mis 10 fois plus de temps qu'il faudrait normalement pour le faire.
Tu vois, moi je l'ai fini du premier coup en fait, j'ai dû mettre 18 jours pour le finir, et du premier run, j'ai vraiment pas traîné, j'avais tout de suite compris les mécaniques, j'avais tout de suite vu l'aspect stratégique, j'avais tout de suite vu ah ouais, il y a 3 pièces à cet endroit-là à peu près, donc il faudrait arriver à les ramasser le même jour. En fait, j'ai vraiment joué ça comme un jeu de stratégie, et quand tu le joues comme ça, c'est-à-dire vraiment comme un jeu de gestion et de stratégie, même si t'es obligé de faire beaucoup de choses en même temps, t'es obligé d'être très multitâche, au final, j'ai dû recommencer quelques journées, parce que j'étais un peu limite. Je me rappelle notamment d'une journée où j'avais réussi à ramasser 3 pièces, et en fait il y en a 2 qui sont arrivées jusqu'au vaisseau, et la troisième était à mi-chemin, donc j'ai recommencé, mais pas tant que ça, au final, et moi j'ai pas compris pourquoi tout le monde était bloqué sur cette limite de jours, surtout qu'en plus, t'as 30 pièces de vaisseau à récupérer en 30 jours, parce que je crois que c'est ça, c'est 30 pièces de vaisseau
en... Ouais,
c'est
en fait, ça. Elles sont pas toutes obligatoires, t'en as besoin d'un 25 pour pouvoir repartir.
Je crois que t'en as besoin de 20 pour repartir.
Ouais, 20 ou 25, et si t'as les 30, t'as la meilleure fin, évidemment.
Mais si t'as les 25, c'est largement suffisant. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de... T'as un petit côté stressant quand même, parce que tu faut pas que tu traînes. Il y a quelques pièces indispensables, mais ça contribue aussi au scénario du jeu, c'est-à-dire que souvent, à la fin de la journée, quand il y a le fameux bilan, c'est que les oignons décollent, le capitaine se remet en orbite... il fait son petit bilan de combien il a perdu de Pikmin, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. Il y a des moments où il te dit, je me demande si toutes les pièces sont vraiment indispensables. Ça, par exemple, franchement, je pourrais m'en passer, j'en ai pas besoin pour retourner sur ma planète. Ça, honnêtement, ça me sert à rien. Donc franchement, je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout réparer? Est-ce que je peux pas essayer de faire mieux? Je trouve qu'il y a un côté très touchant à l'histoire, à cette relation entre le capitaine Olimar, qui est être doué d'intelligence, qui parle, qui écrit, qui voilà, et les Pikmin, qui sont finalement des créatures super attachantes, mais qui sont un peu comme des animaux finalement, qui sont pas doués de parole, qui sont pas, on n'est pas sûr qu'elles soient douées de conscience. Voilà, il y a un côté très
esclavagiste. Ah non, c'est pas le bon terme.
Très lemmings.
Non, les lemmings, moi j'ai toujours eu envie de les buter, je trouve qu'ils sont absolument pas attachants.
Ils sont insupportables, les lemmings.
Ils sont absolument insupportables. Alors les Pikmin sont super attachants, et ça te fait mal au cœur d'aller les faire se battre, parce que voilà, mais t'en as besoin pour survivre. Je trouve qu'il y a un côté très... la relation entre le capitaine Olimar, le joueur, et les Pikmin, je trouve, est vraiment assez, assez exceptionnelle dans un jeu vidéo. C'est vraiment, il y a un attachement émotionnel... aux personnages des Pikmin, même s'ils ont finalement peu de personnalité, c'est le groupe qui a une personnalité, c'est pas vraiment les individus. Et l'individu qui est le capitaine Olimar, il y a un rapport entre le groupe et l'individu, il y aurait énormément de choses à dire sur Pikmin. C'est vraiment un jeu que je trouve exceptionnel.
Et puis en plus, quand on repense, surtout le premier en fait, qui avec sa limite de temps, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut faire avec les roguelike à l'heure actuelle, où t'as cette notion de... arrivé à un certain moment, tu vas perdre parce que t'as pas le bon équipement, t'as pas fait ce qu'il fallait. Et cette idée qu'avec Pikmin, t'as une limite de temps pour récupérer toutes les pièces, mais qui fait que bah, à force de te planter, tu t'amélioreras et tu seras capable d'en récupérer 2-3 par jour au lieu d'en avoir au moins une. C'est ce côté un petit peu qu'on retrouve dans les roguelites actuels, je trouve.
Oui, effectivement, tu as ce côté, tu deviens de plus en plus bon. C'est-à-dire que la première journée, tu récupères effectivement une pièce d'équipement qui est indispensable parce qu'il faut que tu retournes en orbite. Et au bout de la 5, 6, 7e journée, tu commences à arriver à récupérer 2, 3 pièces d'équipement par jour parce que t'es meilleur, parce que tu connais mieux les ennemis, mieux les obstacles. T'as une vraie progression. Il n'y a pas seulement ta population de Pikmin qui augmente, ça aide. Hein. Je veux dire, t'as de plus en plus de Pikmin qui ont des capacités propres chacun. C'est-à-dire qu'au départ, tu commences avec que des rouges, tu gagnes les jaunes, tu gagnes les bleus. T'en as de plus en plus. Ils sont de plus en plus costauds parce que au fur et à mesure. T'as de plus en plus de Pikmin fleurs et de Pikmin bourgeons qui font que les premiers que tu sors, en fait, c'est systématiquement des fleurs et ensuite des bourgeons et ensuite éventuellement des feuilles. Mais voilà, au bout d'un moment, tu finis par avoir 300 Pikmin rouges, donc t'as vraiment de la réserve. Comme tu peux en avoir qu'une centaine de présents sur le terrain au même moment, tu commences à vachement mieux gérer tes groupes, à vachement mieux gérer ton temps. Enfin, c'est vraiment un jeu assez exceptionnel. Pikmin 2, je trouve que l'histoire est beaucoup plus oubliable parce que finalement tout ce côté relation entre le capitaine, les Pikmin, le joueur.
T'as pas le sentiment d'urgence en fait.
Le sentiment d'urgence tu l'as pas et surtout le prétexte de l'histoire il est bassement mercantile.
C'est bah, il est prétexte. Rentres,
il est vraiment prétexte. C'est quand tu rentres sur ta planète, ton patron te dit ah mais dis donc, t'as ramassé une capsule de bouteille, ça vaut vachement de thunes, faut aller là-bas vite parce qu'il faut sauver mon entreprise.
Voilà,
tu perds tout ce côté, je trouve, extrêmement touchant de la relation entre Olimar et les Pikmin, pour avoir juste une... Finalement, dans le premier, t'étais Robinson Crusoe et Spatial, dans le deuxième, t'es Emmanuel Macron, et t'as les petits Français qui travaillent pour toi. Quoi.
On m'avait dit pas politique.
Moi, il
y a un truc que j'aime beaucoup dans Pikmin, c'est vraiment tout l'environnement qui a ce côté un petit peu France miniature, où finalement, ce qui pour nous, être humain d'un mètre 70, un mètre 80, représente
toi, une canette, c'est rien, 30, mais...
2 mètres 30 et 2 mètres 50 pour Drosgar aussi.
Non, mais moi, personnellement, je me sens beaucoup plus proche des Pikmin, hein, du haut de mon mètre 73.
Une racine qu'on enjamberait sans souci pour Olimar et les Pikmin, c'est un obstacle qui est énorme.
Pour Mortal aussi, t'inquiète.
Pour Mortal aussi, j'en ai remarqué. Et c'est ça que je trouvais fascinant en fait dans le jeu, c'est ce côté, tout ce quotidien que je connais devient, qui pour moi est normal et inoffensif, devient comme une espèce de rempart à ma survie dans Pikmin.
Comme une jungle.
Voilà, comme une jungle. Et en fait, dans le 2, t'as une grosse partie du jeu, c'est dans des cavernes, des espèces de donjons impersonnels. Et bah, j'étais super déçu de voir que cette partie-là que j'aimais beaucoup dans Pikmin n'était pas conservée.
Et du coup.
N'était pas aussi importante.
Pour revenir sur le roguelite, c'est vrai que Pikmin 2, toutes les cavernes sont générées procéduralement.
Ouais.
Et ça fait que le jeu a une énorme rejouabilité en solo parce qu'effectivement toutes les cavernes sont systématiquement différentes sauf celles où il y a des boss. Mais Pikmin 2 en fait j'ai réussi à le finir mais j'en ai tellement chié sur le dernier boss que ça m'a limite dégoûté. Par contre Pikmin 2 a un truc gigantesque, c'est il a un mode multijoueur sur lequel j'ai passé je pense des dizaines d'heures parce que c'est super fun. L'objectif, alors il y a plusieurs modes, mais il y a un des objectifs où l'objectif, enfin un des modes de jeu, où l'objectif c'est d'aller ramasser 3 billes qui sont sur le terrain. Mais le truc c'est que tu peux aller voler la bille des autres, et puis t'as des potions qui te rendent plus fort, donc tu peux aller casser la gueule au Pikmin de l'adversaire, et t'as des potions qui te rendent invisible. Donc tu peux faire des trucs super putes, genre je vais dans le camp de l'adversaire, j'attends qu'il ramasse une bille, je mets mes Pikmin en vénère, il défonce les Pikmin adverses pendant qu'il ramène la bille et que le capitaine adverse est très loin, et ensuite tu les fais devenir invisibles, tu ramasses la bille et tu la ramènes dans ton camp et le mec en face il a rien compris. Je trouve que c'est juste jouissif. Et ce mode de jeu, il est tout con, mais il est vraiment super intéressant. Donc si vous pouvez y jouer, alors les versions GameCube sont très bien, les versions Wii sont bien meilleures. Voilà, si vous devez choisir, on va être très clair, le fait de pouvoir aller viser avec la Wiimote pour aller envoyer les Pikmin où on veut, bah ça change la vie. C'est beaucoup moins rigide comme gameplay, même si ça reste très 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 jouable sur GameCube, mais vraiment les versions Wii, Wii Play Control, je sais plus quoi, nouvelle façon de jouer.
C'est sa nouvelle façon de jouer.
Ces versions-là sont vraiment exceptionnelles, en plus elles tournent en 60 Hz, en 16 neuvième, donc vous avez vraiment les meilleures versions possibles de Pikmin, c'est celle-là. en attendant qu'il y ait peut-être un remaster. Et Pikmin 3, c'est un jeu... Je suis en train de faire le montage du live qui avait été fait le 27 février 2017. Et Pikmin 3 est un jeu qui est aussi exceptionnel pour son mode 2 joueurs. Et le mode 1 joueur, je trouve, revient à ce côté un petit peu... urgence survie, parce que finalement, on s'est écrasé, on sait pas trop où... Je trouve que l'histoire est bien plus intéressante que Pikmin 1 et 2. Enfin, Pikmin 2, en tout cas. Pikmin 1 a une place spéciale dans mon cœur pour ça. Le dernier jeu de cette soirée, décidément fleuve, qu'on va essayer de finir très rapidement...
Parce que j'ai pas le droit de parler, hein.
Mais si, t'as le droit de parler, parce que c'est Fire Emblem Path of Radiance.
Oh, bon, de toute façon, je vais aller vite, je pense que je suis le seul à y avoir joué ici, a priori.
Non, moi j'y ai joué aussi.
Un petit résumé, donc c'est l'épisode des 15 ans de la série. Il est sorti pile le 20 avril 2005 au Japon, donc 15 ans après le premier sur NES. Et c'était surtout le gros retour de Fire Emblem sur console de salon après la Super Nintendo, vu qu'ils avaient fait un sauter la 64. Et donc le premier épisode console de salon qu'on a eu en Occident. Et en fait, c'est l'épisode où apparaît Ike, donc c'est pour ça qu'il est connu, qui je trouve est très agréable à jouer pour un débutant, parce qu'il est globalement assez simple.
Il est super accessible.
Il est super accessible, il y a pas mal de chouettes mécaniques. J'aime beaucoup le character design de cet épisode qui a été réalisé par une femme et qui se ressent pas mal sur les designs féminins, qui, contrairement à ce qu'on a pu avoir récemment,
Il y avait beaucoup de gros nichons récemment.
Voilà, autant récemment, on a eu des personnages comme Camilla qui était un peu putassier, autant à l'époque de. Enfin, dans les épisodes.
Qui est très sympa, Camilla. Très 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 sympa.
Elle a des beaux arguments. Elle est très pro. Elle a une très grande personnalité.
Deux très grandes personnalités.
C'est ça. Et donc dans Path of Radiance, on avait des personnages féminins, enfin, qui étaient des combattantes avec des armures tout à fait standard. Donc il y avait ce côté que j'aimais bien aussi, un peu à l'ancienne. Et c'est le début, en fait, c'est l'introduction de la saga de Tellus, donc qui continuera sur Wii avec Radiant Dawn, qui est sûrement au niveau de l'histoire et de l'univers les deux épisodes les plus ambitieux de la série, parce que il y a beaucoup d'éléments, ça se passe sur 3 ans, la suite se passe 3 ans après, donc il y a beaucoup de choses qui reviennent entre les deux épisodes, il y a beaucoup de folklore, de personnages qui interviennent, et c'est deux épisodes que je conseille, enfin en tout cas après Freudian je le conseille car l'histoire est vraiment super simple à suivre, les personnages sont attachants et sur le plan du gameplay ça reste du Fire Emblem classique. Mais il y a pas mal de petits trucs sympas qu'on n'a pas revu depuis, notamment la possibilité des cavaliers de bouger après une attaque, ce qui les rend complètement pétés dans cet épisode. L'apparition des lagus, des techniques, ce genre de choses. Et moi, c'est un épisode que j'ai vraiment apprécié, parce qu'il se finit très rapidement, pour un Fire Emblem, il se finit en une trentaine d'heures. J'y suis revenu assez facilement à l'époque. Et dans l'ensemble, le mode normal est facilement abordable pour n'importe quel débutant. Et au pire, il y a un mode facile.
Enfin, moi, j'ai pas fini le jeu Path of Radiance. Je sais que mon frangin l'a fini sur GameCube. D'ailleurs, j'avais eu, pareil, un disque promo par Nintendo France, donc je suis quand même très content, parce que c'est pas un jeu qui est si facile à trouver que ça aujourd'hui, hein, pour les gens que ça intéresse. Ça coûte en moyenne entre 60 et 70 euros. Ça fait partie des jeux un peu cotés sur GameCube. La version Wii est encore plus cotée.
Ah oui, paraît qu'elle est assez introuvable.
J'ai eu la chance de pouvoir acheter un exemplaire il y a quelques années que j'ai dû payer 50 euros, qui était d'occasion. Je crois qu'aujourd'hui, ça s'échange à beaucoup plus cher que ça. Parce qu'il n'a vraiment pas été tiré à beaucoup d'exemplaires. Bon, maintenant, sur une Wii craquée, on peut jouer deux sans trop de problèmes. Je pourrais pas vous dire pour Path of Radiance, moi ce que je sais c'est que le fait que ce soit tout en 3D, ça rend le truc vachement sympa. Effectivement, il y a un chara-design super sympa. L'histoire est très bien écrite. Alors je l'ai pas fini, mais même le début de l'histoire, les 10, je crois que j'ai dû faire les 10 premiers chapitres, c'est quand même super bien écrit.
C'est un scénario qui est par contre très très classique, hein. C'est le mythe du héros, mille visages, hein. Ça va pas beaucoup plus loin.
Non, c'est clairement.
Globalement, t'as vu Star Wars épisode 4. C'est pas très loin.
Voilà, c'est pas, il y a pas.
C'est juste que c'est pas dans l'espace et leurs épées sont pas laser.
Tout à fait, mais la narration est très bien faite et au final, je trouve que c'est effectivement un jeu qui coule plutôt bien, qui est pas si facile que ça. Faut quand même, quand on est un petit peu chevronné à la série, qu'on a fait les épisodes Game Boy Advance, oui, on retrouve vite les bases, on retrouve vite ses marques et on retrouve
il est facile pour les standards de la série, j'aurais dit, mais c'est un épisode qui s'aborde très facilement quand on connaît pas la série, en fait.
Et même il y a les premiers chapitres qui servent un peu de tuto au jeu, parce que c'est un petit peu toujours comme ça que ça fonctionne, sont vraiment très bien expliqués. Enfin voilà, je le trouve vraiment accessible. C'est peut-être pas le plus accessible.
Bah c'est un des plus accessibles. Bon, pas autant que les épisodes récents avec le mode casual, mais disons que lui il l'est et il sait quand même avoir un niveau d'exigence minimum, parce qu'on n'a pas peut-être pas dans l'héritage par exemple.
Tout à fait. Qui est peut-être un peu simpliste, mais en même temps c'est un peu Fire Emblem pour les nuls, et c'est peut-être pas plus mal non plus, parce qu'il faut aussi que la série soit capable d'aller emmener un peu tout le monde.
Mais faut pas oublier que c'était à l'époque où Fire Emblem, un épisode c'était linéaire, quoi. C'est, tu commençais du chapitre 1 et tu finissais au dernier chapitre, et il y avait pas de mission annexe entre les deux, quoi.
Tout à fait. Et puis t'avais toujours les armes qui cassent, t'avais pas forcément les magasins entre les missions. Enfin,
là pour le coup, si, c'est l'épisode où, magasin est disponible entre les missions. Et c'était pas plus mal d'ailleurs.
C'est pas plus mal. Voilà, nous allons donc nous quitter sur une citation de Cyrard qui d'aujourd'hui, hein, parce que Cyrard était très actif aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Il nous a dit voilà, les meufs sur Tinder qui veulent de l'amitié et pas de plan cul, bah moi je vais sur YouPorn pour voir si le plombier répare vraiment l'évier. je pense que ça va lui.
Putain.
Oui, si tu te poses un jour la question de où je les trouve, t'as pas envie de savoir. Tu n'as pas envie de savoir. Voilà, je suis désolé d'avoir fait une émission extrêmement longue, parce que je me rends compte qu'on a fait pratiquement 2 heures d'émission, mais c'est vrai que la GameCube, c'était compliqué de...
Et on abordait que la moitié des jeux dont on voulait parler.
On a zappé Wind Waker, dont on avait déjà parlé dans nos émissions, Luigi's Mansion, dont on avait déjà parlé, il y a quelques autres jeux, genre Peach Pikers, un jeu un peu rigolo, dont on n'a pas parlé. Il y a Billy Hatcher and the Giant Egg.
On aurait pu parler de Pokémon Colosseum aussi.
Exactement.
Et Pokémon Chanel.
Stop.
The Tales of Symphonia.
Lego Star Wars 2.
Oui, non mais vraiment, je le défends, je suis désolé.
Ah non, mais il est très très bien. Il est très très bien ce jeu. Maintenant, si vous voulez jouer à Lego Star Wars, vous jouez à Lego Star Wars Trilogy.
Oui, mais forcément, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Coup.
Et sur Wii ou sur PS3, je pense que c'est les
versions. Ou sur PC.
Ou sur PC. Ah, il est sorti
comme
sur
ça,
PC.
Oui, et comme ça, on peut jouer à deux sur le même PC.
Ça c'est cool. Voilà, donc sur GameCube, je pense qu'on pourrait consacrer 10 émissions à la GameCube et repasser cette ludothèque en boucle. Il y a quand même des jeux assez exceptionnels.
Ben, comme je l'avais dit au début, c'est quand même une période où une bonne partie d'entre nous, on commençait vraiment à jouer aux jeux vidéo. En tout cas, moi c'était mon cas et de Rosgar aussi, sûrement. Et du coup, on a pas mal de bons souvenirs sur cette console.
Bah, moi c'était vraiment mes débuts, donc j'avais pas vraiment un esprit critique là-dessus. Et c'est pour ça que, enfin, c'est ce que je trouve un peu dommage au final, c'est que j'achetais plein de jeux un peu n'importe comment, et j'ai pas forcément fait les classiques de l'époque. Il y a plein de jeux dont on a parlé ce soir que je connais de nom, mais que j'ai jamais pu essayer.
Bah écoute, tu sais comment te rattraper maintenant.
Ah oui, mais je vais faire ça cet été, hein, t'inquiète pas.
Voilà, je pense qu'il y en a quelques-uns qui valent le coup. Si vous avez jamais joué à la GameCube, bah écoutez, quasiment toutes les Wii, enfin la plupart des Wii sont rétro-compatibles, donc faut pas hésiter.
Et si vous êtes un peu bidouilleur, il reste la solution annexe.
Voilà, il y a moyen, il y a un très bon émulateur qui s'appelle Dolphin, qui fonctionne redoutablement bien pour les jeux GameCube, un petit peu moins bien pour les jeux Wii, mais qui émule les jeux GameCube à 100%, y compris la partie sonore et autres, donc avec un bon... Alors faut quand même un bon PC, mais... Il y a moyen de le faire, sinon sur une Wii éventuellement craquée, ou sur une Wii U éventuellement craquée, il y a moyen de jouer à pas mal de choses. Voilà, on n'a pas poussé vers ce genre de solution-là, mais c'est vrai qu'il y a quelques jeux qui ne ressortiront probablement jamais. Il n'y a toujours pas de console virtuelle GameCube, hein, je rappelle, c'est quand même la console un peu mal aimée par Nintendo.
Je pense que c'est peut-être aussi un petit peu plus compliqué à faire en console virtuelle.
C'est moins compliqué que sur N64.
Probablement. Ben, on a bien eu une espèce de console virtuelle.
Oui,
donc la GameCube semble envisageable quand même.
Et puis je rappelle que les hackers l'ont fait. Avec Nintendont d'ailleurs.
Oui, c'est ça. C'est que ça s'appelait comme voilà. Ça.
Donc, on vous dit à la semaine prochaine. Je sais de quoi on va parler, mais je vous garde la surprise. Le podcast sera normalement disponible demain soir ou après-demain soir.
Et vous noterez qu'on avait dit qu'on ferait des émissions hebdomadaires pour faire des émissions plus courtes, et celle-là, elle dure bien 1h30.
Et bien on a bien foiré, comme d'habitude.
Évidemment, mais sans voilà. Bagarre, on n'en pas longtemps.
C'est pas trop grave. Voilà, bisous, ciao tout le monde, à la semaine prochaine.
Salut.
Salut.